Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Europe. Eh oui, c'est la fin de la série, c'était du 7 sur 7, maintenant c'est du 7 à 8. T'as vu, je peux refaire la blague, hein. C'était
vrai. Bravo, je t'ai dit. Hein.
Comme d'habitude, bonsoir Dino, et tu ne chantes pas.
Bonsoir. Mais j'ai encore rien dit, j'ai dit.
Mais tu chantes pas.
Mais j'ai pas dit que j'allais chanter.
Oui.
Non, je ne chanterai pas. Je pense à nos amis réunionnais. Non, je ne chanterai pas. Non.
Et Dino, quel est notre guest de la semaine?
C'est un guest qui ne pouvait pas mieux choisir.
Ah,
quand même, si on
elle a bien choisi.
Voilà. Puisque c'est Jenny, nous recevons notre troisième fille dans l'émission. Non, on est trop fort, en fait.
Ah, trop fort.
On a un sex appeal radiophonique incroyable. Bonsoir, Jenny.
Bonsoir.
Alors, je suis quand même.
Et Jenny, tu dis pas bonsoir.
Bah, bonsoir, Jenny. Mais j'ai.
T'es un goujat. Ah là là.
Mais parce que je voulais passer tout de suite à l'essentiel, au plus important, parce que je suis quand même obligé de vous poser cette question. Qu'avez-vous pensé de cette course?
Ah, bah, magnifique. Fernando, ça pouvait pas mieux tomber.
Je dois dire que j'ai été impressionné par un pilote en particulier, et franchement, je me dis qu'il mérite bien sa place. Mais je ne dirai rien.
On ne sait pas lequel.
Non, mais je crois que là, il y a beaucoup de gens qui écoutent le SAV et qui attendent le top 10 vraiment cette semaine.
Oui, je crois. On peut faire des estimations, Shiji, peut-être. Je crois que... Attends, je calcule. Je crois qu'il y a une douzaine de petits malins qui se disent « Ah tiens, vivement le top 10 !»
Non, plus que ça.
Eh ben, vous allez pouvoir ôter, les mecs.
Il y aura de tout. Il y aura de la passion, il y aura de la folie, il y aura même du scandale ce soir.
Ah oui, pour avoir de tout, il va y avoir du tout.
Il y aura de tout.
T'as vraiment choisi la bonne émission.
Carrément.
Mais le top 10, je pense que... Tu vas être déçu, Dino. Je vais pas...
Non, ne dis pas ça. Non. Ah, saleté de safety car.
Et donc, nous étions le 24 juin. Et,
oh, merde.
Et rappelons-nous, qu'est-ce qui a bien pu se passer un 24 juin? À part une super putain de course au Grand Prix d'Europe.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors écoutez bien, puisque cette semaine c'est un gros chiffre, hein, c'était un petit, un chiffre moyen, là, c'est un gros chiffre cette semaine. Le chiffre de la semaine est 951 583 777.
Hein?
951 millions?
Oui, 583 777.
D'accord.
C'est de l'argent?
C'est de l'argent.
Oh, donc c'est des dollars?
C'est des dollars.
Bah, je suis en feu.
T'es en feu.
C'est en rapport avec la Formule 1 ou pas?
Non.
Mais Jennifer, voyons. Réfléchis! C'est un truc inutile, je suis dit. Non, ça n'a pas de sens.
C'est en relation avec le sport ou pas, quand même?
Non.
Ça concerne l'Espagne?
Non.
L'Europe?
Non.
C'est le prix auquel on a acheté quelque chose?
Non.
C'est le prix qui a coûté quelque chose?
Non.
De toute façon, c'est des dollars, donc ça concerne les États-Unis ou c'est...
Oui, ça concerne les États-Unis.
C'est un cumul?
Oui, c'est un cumul.
Est-ce que c'est un investissement en termes de dollars? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été investi? Comme en bourse ou...
Non, enfin, sans doute une partie a été réinvestie, mais c'est pas une somme qui a été complètement investie quelque part.
Une partie qui a été investie?
Ah non, c'est une supposition, vous partez pas là-dessus. Enfin,
c'est une position, Shinji.
Non, mais c'est pas, voilà.
La position 610 millions, machin truc, là?
Non.
J'en connaissais pas autant. Est-ce que le chiffre est intimement lié à l'événement qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que c'est un événement parce qu'on l'a acheté, ou enfin qu'il y a un truc à coûter ce jour-là?
Non, c'est pas parce que c'est ce jour-là, non.
D'accord.
Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? C'est lié à une entreprise ou
On peut parler de chiffre d'affaires, mais c'est pas une entreprise. Enfin, c'est pas directement une entreprise.
C'est une forme de revenu.
Oui.
Revenu d'un film.
Oui.
C'est les recettes totales, mais d'un film, donc les entrées de cinéma, etc.
Voilà.
Donc ça sera un film qui serait sorti au mois de juin.
Ah, je peux le dire, il est sorti le 24 juin aux
États-Unis. Oui, c'est logique.
Bien évidemment, voilà.
Le 24 juin. Est-ce que c'est un film d'une série de films?
Non.
Parce que c'est un film que j'ai vu, Shinji.
Oui.
C'est un grand classique du cinéma américain ou c'est une...
C'est un grand classique. Hein. De toute façon, pour rapporter 951 millions quand même.
Oui. Oh non. Déjà, je suis dit non. Un film de la dernière décennie?
Non.
Des 20 derniers... des 20 dernières décennies.
Oui. Non, des 20 dernières années, oui.
Un film de Tarantino?
Non.
Spielberg?
Non.
Scorsese?
Non.
Un film américain?
Oui.
Le réalisateur aussi est américain?
J'ai plus le nom en tête, mais oui, il est américain.
Donc c'est un film qui est plus connu que le réalisateur?
Oui.
Genre, le mec, il aurait fait ce film-là, c'est un film qui est super connu, et lui, derrière, il n'a pas fait d'autres.
Il en a peut-être fait d'autres, mais en effet, je pense que peu de gens savent qui a réalisé le film.
Mais ce film, il a cartonné parce que c'est un blockbuster ou c'est parce que c'est une surprise?
C'est un blockbuster.
Est-ce que l'acteur principal du film est toujours vivant ou pas?
Non.
Non.
Il est mort donc.
Non.
C'est un dessin animé.
Oui. Ah.
C'est le Roi Lion.
C'est le Roi Lion. Trop bon. Parce que comme t'en as parlé la semaine dernière, l'occasion était trop belle. En effet, le Roi Lion, donc, qui a été réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff, mais tout le monde s'en fout. Personne sait qui a réalisé le Roi Lion.
Oui. Alors globalement, les Disney, tout le monde s'en fout.
Voilà, tout à fait. 43e long métrage d'animation de Walt Disney, considéré comme le 32e classique d'animation, hein. Donc, ça, c'est un blockbuster, hein. Alors, il a donné, série, une comédie musicale, une série télé, hein, notamment. Donc, il a rapporté 951 583 777 dollars depuis 1994. Donc, 24 juin 94, sorti aux États-Unis. En France et en Belgique, hein, il était sorti le 9 novembre. Hein, ça, nous, c'était pour Noël. Eux, c'était pour l'été. C'est un projet qui a débuté en 1988, hein, sous le nom King of the Jungle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a toujours plusieurs projets en même temps, hein, mais évidemment, du côté des studios Disney. Eh bien, les animateurs, ils croyaient pas forcément au Roi Lion. Beaucoup plus d'animateurs, en fait, voulaient plutôt travailler sur Pocahontas, qui a été un succès, mais pas autant que le Roi Lion, bien évidemment. Donc, afin d'ajouter du réalisme au film, hein, il a été fait comme depuis Blanche-Neige, c'est-à-dire voyage en Afrique, visite de lions, de vrais lions au studio, hein, pour voir à quoi ils ressemblent. Alors, le film n'est pas considéré spécialement pour être une pierre blanche, hein, dans la technologie, mais il y a quand même la fameuse scène des gnous qui était assez innovante à l'époque, hein, dans le côté gestion informatique d'une masse. Hein, on se souvient tous de cette scène des gnous qui descendent dans la vallée, très impressionnante.
Voilà, c'est beau.
Le film, donc, il est sorti. Il a été diffusé tous les jours, donc entre le 24 juin et le novembre 94, sauf 3 jours en septembre, lors de la rentrée des classes. Ah. Oui. Oui. Pendant la rentrée des classes, bah, il n'y avait pas le Roi Lion. Tu pouvais pas y aller pendant 3 jours.
Éviter de sécher les cours.
Voilà. Et donc, sur la première sortie, hein, du film, il a rapporté 422 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de l'animation américaine et même en général, hein, mondiale, hein, derrière, vous savez qui est le premier? Vous le connaissez, vous l'avez sans doute vu.
Bah, j'allais te poser la question.
Bah, c'est le monde de Nemo.
Ah ouais, d'accord. Ah bah non, j'ai pas vu. Ah. C'est dingue, mais non.
Oh, mais c'est une histoire de petits poissons,
j'ai envie. Bah oui, je sais, mais je l'ai pas vu, celui-là.
Voilà. Et donc, à travers le monde, hein, 951 millions de recettes, à comparer avec son budget de 79,3 millions de dollars. Ce qui fait qu'il est considéré comme le plus gros succès d'animation de tous les temps entre son coût et ses recettes. Alors, c'est un film qui a quand même suscité la controverse par rapport à ses origines. Alors, officiellement, le Roi Lion s'est inspiré à la fois de l'histoire de Moïse et peut-être que je me trompe pas.
Oui, là, je te dis, on va te laisser dans la
mais
merde.
Mais non, de Moïse et Joseph. Mais non, je lis mes notes, c'est pour ça. Et aussi Tête. Ah. Hein. Mais les gens qui connaissent un peu l'animation japonaise savent qu'il y a aussi une autre source d'inspiration très forte au Roi Lion, qui est l'œuvre qui s'appelle Jungle Tantei, c'est-à-dire le Roi Léo.
Alors que vous avez... C'est un petit lion blanc, non? C'est
ça. Petit lion blanc, exactement.
Je m'en rappelle, oui.
Exactement. D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu une pétition de 1000 animateurs qui a été envoyée à Disney en disant que c'était un scandale, parce qu'officiellement, pour Disney, on va dire, c'est juste des coïncidences. Le problème, c'est que quand on regarde un peu plus précisément au niveau de l'histoire, au niveau des plans, c'est quand même...
Le graphisme aussi, les deux lionceaux, ils se ressemblent pas mal.
Tout à fait. Bah, le héros japonais, hein, donc à part, il s'appelle Kimba.
Oui.
Pour Simba.
Oh. Hein. Ça se ressemble à peine, je dis.
Bien sûr. Kimba qui a perdu son père, qui meurt.
Kumba.
Non, il s'appelle.
Ah non, c'est quoi déjà le père de.
C'est Mufasa.
Mufasa. Mufasa. Voilà.
Je sais plus quel est le nom du père de Kimba, mais il perd son père, lui aussi, hein. Lui aussi, il va revenir, dans la jungle pour devenir roi.
Terrible jungle, le lion est mort. Ce soir, c'est pour toi, Sidney.
Et ce qui est plus dingue, c'est qu'il y a vraiment des plans.
C'est-à-dire
que dans Le Roi Léo, on trouve aussi, par exemple, le fameux plan de Mufasa, vous savez, sur cette pierre, en majesté. Eh ben, ça existe aussi dans Le Roi Léo. La scène avec les ronces, ça existe aussi dans Le Roi Léo. La scène.
Quel hasard!
La scène où Simba parle à son père, où il apparaît comme ça dans les nuages, parce qu'il est mort, bien évidemment. Eh ben, ça aussi, c'était aussi dans Le Roi Léo. Alors, officiellement, les studios Tezuka au Japon n'ont jamais porté plainte. Alors, il a été dit que peut-être que Disney avait payé le studio Tezuka pour qu'il ne dise rien. Le patron en fait du studio a dit que tout simplement ils n'avaient pas les moyens de rentrer dans une bataille judiciaire avec Disney.
Oui.
Voilà.
On parle quand même du studio Tezuka.
Oui, mais bon, c'est pas la même taille. On parle d'une multinationale.
Oui, non mais voilà.
Quand, voilà, on parle quand même du studio Tezuka. D'une multinationale. Donc énormément de similitudes, à tel point que l'acteur Matthew Broderick, qui est la voix anglaise de Simba adulte, au début, il pensait que c'était en fait un remake. Et donc quand il parlait autour de ses proches, il disait « Ah bah je vais faire, voilà, Disney fait un remake du Roi Léo et je vais être la voix du héros. » Mais non, parce que faut dire que sur les dessins préparatoires qu'on présente bien évidemment au doubleur hein, pour qu'il puisse travailler, eh ben devinez de quelle couleur il était Simba.
Il était blanc.
Il était blanc, exactement. Donc, formidable. Extrêmement beaucoup de similitudes. Je vous invite à regarder sur Internet, parce que là, vous pouvez voir en images les similitudes entre les dessins. C'est assez incroyable. Le pire, c'est que ce sont deux excellentes œuvres. Donc, c'est un peu triste. Et même du côté du studio Tezuka...
En même temps, Shiji, c'est la même œuvre. Donc, du coup, on peut dire que c'est une excellente œuvre.
Oui. Et les gens du studio Tezuka ont dit, mais vous savez, si Osamu Tezuka était encore vivant, il serait honoré, parce que lui-même, dans les années 40, en fait, s'était inspiré de Disney pour créer ses premiers mangas, et ça se voit beaucoup, en fait, sur ses premières œuvres, dans son style, on va dire, son style de dessin.
Bah, ouais, voilà.
Bah, en même temps, lui, il a jamais pondu non plus une histoire avec une souris qui porte une culotte, hein. Voilà, il a juste repris le dessin.
Tu fais un jugement de valeur, Shiji, qui est incroyable.
Carrément.
Je trouve ça indécent.
Complètement. Alors, il a quand même reçu l'Oscar de la meilleure musique et de la meilleure chanson, les fameuses chansons du Roi Lion, ainsi que des Golden Globes. Pour l'anecdote, la fameuse phrase Hakuna Matata est
Hakuna Matata.
Eh ben, elle est grammaticalement incorrecte. Ah. Oui, littéralement, Hakuna Matata, ça signifie des ennuis, n'ai-je pas?
Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'était une phrase qui a été proposée par Maître Yoda.
Voilà. Mais ils pensaient que, bon, comme la tournure s'était muée à Hakuna Matata, ils ont gardé comme ça. Hein. Et donc, Le Roi Lion, c'est le seul classique Disney dans lequel il n'est fait aucune référence aux humains. Les animaux n'en font pas mention et aucun élément ne laisse entrevoir une présence humaine.
Et c'est quoi la version grammaticalement correcte de Hakuna Matata?
Ah, ça, je l'ai pas et je parle pas le Swahili, donc je vais pas te la sortir.
T'as pas fait ton boulot.
C'est dommage.
Ça doit être quelque chose du genre Matato Hakuna ou un truc comme ça, normalement. C'est peut-être juste la déclinaison qui change sur Hakuna ou des trucs comme ça. Hein. Donc, c'est le seul où l'on voit directement mourir l'un des personnages gentils. Puisque même dans Bambi, eh ben, la mort de Bambi, de la mère de Bambi, c'est pas Bambi qui meurt, c'est sa mère, oui, elle est suggérée. Alors que là, on voit le meurtre de Mufasa. On voit même son cadavre pendant plus d'une minute. Ce qui était une nouveauté quand même pour un Disney. Enfin, surtout pour un classique Disney.
Voilà, et regarde, 15 ans plus tard, on a des enfants violents et compagnie.
C'est à cause de Disney.
Tout ça, c'est Le Roi Lion.
Carrément. Et il faut savoir que le film est encore un succès, parce que l'an dernier, donc, il est sorti en Blu-ray, ils ont quand même vendu 3,83 millions de Blu-ray dans le monde, pour un film qui a bientôt 20 ans, c'est joli. et ils l'ont ressorti en version 3D et il a rapporté 94 millions de dollars. Oui, c'est stupide de ressortir le Roi Lion en 3D, on est tous d'accord. Mais ils l'ont fait et ça a quand même rapporté 94 millions au point d'ailleurs que ils ont décidé de ressortir d'autres classiques matinés à la 3D. Donc normalement, on va y avoir la sirène ou Aladdin en 3D.
Les studios sont pas stupides, ils sont super intelligents. C'est les gens qui vont voir leur Roi Lion en 3D qui sont cons. Je suis désolé, mais faut remettre les choses dans l'ordre. Les mecs, ils sont super intelligents. Ils ont compris qu'il y avait des cons qui étaient prêts à payer 10 euros pour revoir le même film en 3D.
Parce qu'autant 10 euros même avec
le Blu-ray, il est magnifique.
Oui, c'est vrai.
En 3D, voilà, c'est un film qui n'a pas été pensé en 3D. Donc, voilà. Donc voilà, c'était pour le chiffre du jour. Et alors en F1. On va parler d'un autre roi.
C'est pas Louis XIV, un truc dans le genre?
Non, en F1. Louis XIV en F1, c'est marrant, c'était génial.
Oui, non, mais Louis XIV a fait 2 grands prix. Je me rappelle, c'était le grand prix de lui-même. Le grand prix de France.
Pas normal, oui. Non, de lui-même. De lui-même.
Et voilà. C'était sur deux fois, c'était sur un cheval cabré, mais il est tombé, en fait, dès le départ. Il nous a fait une randonnée du puni.
Spéciale dédicace. Non, on va parler du Juan Manuel Fangio, né le 24 juin 1911 et qui aurait eu 101 ans cette année. Alors, je vais pas revenir sur l'intégralité de la carrière de Juan Manuel Fangio, je vais y revenir en chiffres et montrer quand même ces statistiques qui sont juste énormes. Puisque donc, il est qu'un...
Ouais, il a été que 5 fois
champion. Il a été que 5 fois champion du monde. Bon. Il est le seul à avoir été champion du monde sur 4 voitures différentes. Alfa Romeo en 51, Mercedes 55, Ferrari 56 et Maserati en 54 et 57. Sa carrière en F1, évidemment, s'est étalée entre 1950 et 1958. Alors, au niveau de ses stats pures, il a eu 24 victoires. C'est le 9e en valeur absolue. Mais en pourcentage, par rapport au Grand Prix qu'il a disputé, c'est le premier. Il a remporté 47,06% des Grands Prix qu'il a disputés.
Mais Vettel va le battre.
Faut qu'il en gagne beaucoup, encore beaucoup, parce que 47%, c'est 1 sur 2.
Non, Vettel va le battre.
Fangio a fait 29 poles. C'est le 7e en absolu, mais le premier en relatif. 29 poles, c'est 56,86% des Grands Prix disputés. 23 meilleurs tours, c'est le 8e en absolu, le premier en relatif. Bon, si on accepte le cas de Masahiro Asemi, vous savez, c'est le fameux japonais qui a fait le temps à Fuji, mais on sait tous que c'est pas lui qui a fait le temps parce que c'est Jacques Lafitte qui l'a fait dans le brouillard. D'où pourquoi
76.
Oui.
Non, oui, 76.
Fangio, c'est 35 podiums. Donc là encore, c'est 68,63% des grands prix disputés. Sachant que devant lui, il y a deux Italiens, il y a Serafini et Fagioli. Et Serafini, il a fait qu'un grand prix et Fagioli en a fait que 7. C'est pas comparable. Et plus incroyable, c'est que même en points, alors que les barèmes sont complètement différents aujourd'hui, il a une moyenne de 5,44 points par grand prix. Il est 4e encore.
Oui, mais plus pour longtemps.
Plus pour longtemps, mais il est encore 4e.
Parce qu'il a dû commencer sa carrière plus tard par rapport à certains autres maintenant.
Oui, parce qu'il a commencé sa carrière avant la Seconde Guerre mondiale. Et non, il y a eu la coupure. Il a quand même 8 ans de carrière en F1. Mais c'est vrai qu'en nombre de points par Grand Prix par rapport au barème, c'est juste incroyable. Parce que maximum, tu pouvais faire quoi 11 points 10 points Parce qu'il y avait un point, je sais plus, pour la pole ou le meilleur tour. 5,44, c'est assez incroyable. Même au niveau des kilomètres en tête, il est 6e, avec 9316 kilomètres.
Je me demande même si au début c'était pas 6 points, le barème.
C'est pas impossible.
6, 4, 3, 2, 1, il me semble. Et après, il y avait un point pour le meilleur tour, le meilleur tour.
Et tout ça, il l'a fait sans avoir le permis de conduire. Ce qu'il ne l'a obtenu qu'en 1961.
T'imagines, non mais je le mets. Alors, monsieur Fondio, est-ce que vous savez faire une marche arrière? Juste la marche arrière, déjà. Montrez-moi que vous savez faire ça. On va reprendre les bases.
Et quand il s'est éteint le 17 juillet 95, eh bien, il y a eu 3 jours de deuil national en Argentine.
Ouais.
Voilà. C'était tout pour cet éphémérite.
C'était un bel éphémérite, Shinji.
Comme d'habitude.
Non, il y a des jours où je le dis et je le pense pas, mais là, je le pense. Parce que vraiment, le 25 juin était une belle journée, je trouve.
C'est bon?
Non, après, si tu veux, je peux rajouter du texte, Shinji, ça me dérange pas. J'ai d'ailleurs un texte qui me vient, c'est un texte italien un peu...
Non. Tu sais quoi? Passons à notre invité.
Ah, tu veux parler de l'or de gloire de l'invité?
Bien sûr.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Jennifer, tu le sais, cette année dans l'émission, nous vous consacrons à vous, nos chers invités, une heure, enfin une demi-heure, un quart d'heure maximum quand même, pour vous mettre sur l'avant de la scène, parce que c'est vrai que mine de rien, Shinji, tu parles beaucoup. Je trouve que tu monopolises beaucoup de choses, Shinji, dans cette
émission. T'as fait déjà, tu sais que tu as déjà fait cette blague.
Oui, mais j'adore la faire. Parce que c'est extrêmement de mauvaise foi, donc voilà. Et donc, on va essayer de voir un peu comment tu vis l'actu, comment tu perçois un peu le monde de la F1 qui t'entoure.
Okay.
Et ça commence par le...
Le pour et le contre, non, c'est ça.
Elle n'a pas compris la règle.
Non, mais ça n'a pas encore commencé, donc...
Mais non, mais je veux mettre des gages, moi, un jour.
C'est pendant l'émission.
Ouais, mais c'est le pour, pas pour.
Pour, pas pour, pardon. C'est...
Voilà, voilà, franchement, hein, Jenny, hein, ça va pas le faire.
Ouais,
hein. Méfie-toi. Donc, je rappelle le principe, je vais te poser 10 questions, pour, pas pour. Tu me dis si t'es pour ou pas pour.
Okay.
Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 des thématiques abordées. En sachant que cette semaine, il y a franchement des trucs très profonds. Alors, on va commencer avec pour ou pas pour Bruno Senna, lauréat du trophée Lorenzo Bandini 2012.
Non, pas pour du tout.
Pour ou pas pour des moteurs de Formule 1 plus verts.
Pour.
Ensuite, pour ou pas pour l'arrivée d'une femme en Formule 1 d'ici 10 ans.
Pour, on va dire.
Oh, l'hésitation.
C'est dingue, hein.
Mais je crois que tu as posé la question au dernier SAV, au dernier invité, et il y avait une réflexion plutôt intéressante.
Ah.
C'est pour ça que c'est.
Ensuite, pour ou pas pour la roue pour hamster USB. Je vous jure, ça existe. C'est le truc le plus débile du monde.
Pas pour.
Ensuite, pour ou pas pour la saison à plus de 20 courses.
Pas pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring.
Pour.
J'entends, t'as dit qu'elle est calme.
Mais y a pas de compète sur cette question.
Oui, non, j'ai dit, tu m'as ridiculisé pendant des années, t'as dit que j'étais le seul supporter, bah maintenant tu payes le prix de ta félonie. Ensuite, pour ou pas pour que Cosworth reste motoriste au-delà de 2013.
Pour.
Pour ou pas pour un Grand Prix de Formule 1 autour du Stade Olympique de Londres.
Pour.
Pour ou pas pour un Grand Prix de Formule 1 en Thaïlande.
Contre, pas pour, pardon.
J'ai dit, réfléchis à un gage. Et enfin, pour ou pas pour Vettel et Alonso, coéquipiers chez Ferrari.
Pour.
Ah, regarde, moi j'aime bien. Tu vois, on va lui retirer son gage.
Ah, voilà.
Ouais. Alors, bah, c'est plutôt équilibré, hein. Il y a 4 pas pour et 6 pour. Donc, pour te remémorer un peu, hein, dans les pas pour, tu as mis Bruno Senna, lauréat du trophée Lorenzo Bandini. La roue pour hamster USB. Alors, juste pour quand même expliquer le concept de roue pour hamster USB. D'ailleurs, c'est une roue pour hamster que vous branchez sur USB.
Elle tourne
et quand vous écrivez sur le clavier, elle va tourner au rythme où vous écrivez sur le clavier.
Non, mais les trucs USB, de toute façon, tu trouveras toujours plus con. Moi, j'attends, c'est...
Non, mais ça, moi, je dis, c'est pas con.
Moi, j'attends,
c'est juste la tortue.
Moi, j'attends l'ordinateur USB. C'est-à-dire l'ordinateur que tu dois brancher sur un autre ordinateur pour le faire fonctionner.
C'est pas con. Sinon, tu nous as pas dit pas pour la saison plus de 20 courses et le Grand Prix de Thaïlande. Pour le reste, tu nous as dit pour. Alors, est-ce que tu as 3 sujets sur lesquels tu aimerais revenir?
Senna, déjà. Bruno Senna, j'ai pas compris du tout.
T'es pas la seule.
Ah non, mais il y a tellement de pilotes en plus qui mériteraient ça. Ça s'appelle comment déjà le lauréat de? Je me rappelle.
Le prix, le trophée Lorenzo Bandini.
Lorenzo Bandini. Ouais, ben non, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Non, mais surtout vu la saison qui, même l'année dernière, il était déjà pas terrible. Non, j'ai pas bien compris. J'aurais peut-être plus vu. Je sais pas, il y a Paul Di Resta qui aurait peut-être plus mérité que lui. Non, Bruno Senna.
Horreur.
Comment?
Schumacher, on le redonnait à Schumacher.
Non,
soit une jeune pilote.
Il est trop vieux, voilà.
Oui, mais ça fait que 2 ans qu'il était de retour dans sa nouvelle retraite. C'est que 2 saisons, hein, c'est un débutant.
Ouais, si tu veux. C'est un vieux débutant, alors.
Ouais, voilà.
Non, non, Il y en a tellement qui mériteraient plus que Bruno Senna, qui a rien fait d'exceptionnel, qui était vraiment déçu. Il y avait Paul Di Resta, Kobayashi, qui était, enfin, je sais pas si on peut considérer encore Paul comme débutant, Kobayashi.
Après, il y a des pilotes qui l'ont eu qui n'étaient pas débutants. Hein, non, ouais. Hamilton, il l'a eu
c'est,
en.
C'est jeune pilote. C'est pas spécialement tout débutant non plus.
Voilà. Oui.
Non, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai absolument pas pour.
Ensuite, un deuxième thème que tu aimerais approfondir.
Je suis pas pour le Grand Prix en Thaïlande parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de. Il y en a déjà quand même pas assez en Asie des Grands Prix. Donc, c'est dommage de tout expatrier là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis absolument pas pour. Et puis on n'a pas de, il n'y a pas de pilote thaïlandais. Je suis pas du pour le Grand Prix en Thaïlande. Par contre, le Grand Prix à Londres, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est autour du stade, c'est ça de.
Oui, apparemment, ça pourrait même aussi passer dans le stade.
Non, bah, si.
Si apparemment ce projet-là aussi en Russie.
Oui, c'est
oui, à Sochi. Ouais.
Mais à Londres, non, ça pourrait être sympa. Ça pourrait remplacer le Grand Prix de Valence qui met à disparaître. Ça pourrait le Grand Prix d'Europe. Ça pourrait être sympa.
Attends, si tu mets un deuxième Grand Prix, ça serait bizarre, un Grand Prix d'Europe au Royaume-Uni.
Oh.
T'imagines ?
Non. Bon, alors, il était bien ce Grand Prix là de Valence, mais habituellement c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel. Mais cette année, c'est vrai qu'on a eu un beau Grand Prix. Mais voilà, le Grand Prix de Londres, non, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, je pense.
Et enfin, une troisième thématique que tu aimerais aborder ?
Je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, il y a les Potter Cosworth, c'est ça là.
Ouais.
Pour parce que je pense que c'est ça qui fait aussi le charme de la F1, c'est tous les différents motoristes, les différents technologies qu'ils apportent. Et c'est pour ça que c'est même s'ils sont pas, c'est pas des super motoristes. Normalement, ils risquent de partir d'ailleurs en 2014, non, c'est ça, avec le Peter V6.
Disons qu'apparemment, Renault, pour eux, c'est fait.
Oui.
Ils sont déjà en train de se pencher sur les cadavres que sont Marussia et
Acharnet. Il y en a deux qui se disputent. Il y a Renault et Pure.
Voilà. Oh, si vous voulez, il vous manque un cœur, on en a un. On est prêt à vous le donner.
Donc c'est pour ça que je suis. Ce serait dommage qu'ils partent parce que ça fait plus il y a de motoristes, c'est mieux c'est le jeu. C'est plus sympa.
Oui, ça crée quand même un risque à ce que la Formule 1 devienne la Formule Renault 4.0.
Oui.
Donc c'est pour ça. Oui, si c'est tous les mêmes motoristes, c'est pas franchement.
Et comme on est dans les moteurs, tu nous as dit pour les moteurs plus verts, tu nous as dit que t'étais pour.
Oui, parce que je suis un. Malgré que j'aime bien la Formule 1, j'ai une petite âme d'écolo, et donc, mais tout en étant, c'est bien parce que ça tend à évoluer, et puis ça montre que, il y a tellement de détracteurs qui vont penser que la Formule 1, ça pollue, etc., alors que, on sait que la Coupe du Monde, les organisations de Coupe du Monde de foot, par exemple, ça va générer beaucoup plus de pollution que le Grand Prix. Donc,
c'est vrai.
Donc c'est pour ça que je suis pour aussi. Ça met un point positif là-dedans, dans le monde de la Formule 1. Donc c'est pour ça que c'est bien les moteurs plus.
Alors ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as strictement rien eu à foutre ces dernières semaines?
Je ne sais plus ce que j'avais mis.
C'est pas grave, tu vas retrouver. T'as le droit de dire une actu économique, hein, ça fera plaisir à beaucoup de gens.
Oui, non, mais c'est vrai en plus, non, que j'ai lu celle-ci et je me suis ennuyé en la lisant.
Tu vois, Steph Kerr, hein? C'est pas nous qu'inventons.
Non, ouais, c'est la. Oui, j'ai sauté les paragraphes, hein, celui-là. J'ai pas plus sauté ça. C'était oui, Waddell et Reed détient désormais 20,9% de la F1.
Ah, bah ouais.
Complètement. Donc voilà.
Ah non, là, on a appris il y a pas longtemps qu'il y a je sais plus qui, truc Campbell, là, oui. Qui détient 0,1%.
Ah ouais.
Ouah, dis donc. En même temps, quand tu regardes la valeur de la F1, tu dis, ouah, putain, 0,1%, c'est pas mal.
T'aimerais bien aussi avoir 0,1%.
Ah ouais. Moi, je prends volontiers. Je garantis pas de les garder longtemps, hein. On me les offre, je suis pas sûr de les garder, mais bon, voilà. Alors ensuite, quelle est l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines? Actu hors Grand Prix, hein, parce que maintenant faut limiter, parce que tout le monde va dire victoire de machin. On va dire actu hors Grand Prix.
Moi j'aimerais bien voir un quatrième français, c'est Jules Bianchi qui rentre en Formule 1 l'année prochaine. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc voilà. C'est une actu que j'aimerais bien lire en fin d'année.
Et plutôt chez qui tu le verrais?
il y en a qui parlaient, qui disaient chez Ferrari, mais ça sert à rien. Enfin, on prend pas de ils prennent pas de débutants, donc c'est n'importe quoi. Mais chez Sauber, pourquoi pas? Surtout qu'il fait partie de l'Académie des jeunes pilotes de Ferrari, donc chez Sauber, ça serait pas mal.
Et au contraire, quelle est l'actu que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Que j'aimerais pas lire.
Fernando Alonso, tous ses titres, il était dopé.
ce serait dommage que Massa me dérange. J'aime bien ce qu'il fait au final, Massa, même si il fait pas une saison bien terrible. Ce serait quand même dommage qu'il parte.
C'est-à-dire qu'il parte de chez Ferrari,
qu'il parte tout. Qu'il termine cette année en 2012 et qu'il parte de la première. En fait, ce serait dommage.
Tu vois, j'ai dit les femmes sont d'une complaisance envers Felipe, c'est incroyable. Voilà, c'est ces petits trucs de rebelle. Ça y est, monsieur s'est pris une suspension de Braun, ça y est, claque. Ah, la cicatrice,
c'est les cicatrices qui font que...
On sent le mec qui a roulé, tu vois. Ouais, il a roulé, voilà. Alors ensuite, pour terminer, hein, ce quart d'heure de gloire, oui. Quel serait ton drive-through of the weekend?
Eh ben, j'ai pas forcément de gros coup de gueule pour cette semaine. Il y a une chose, mais c'était au Grand Prix précédent, Grand Prix du Canada. C'est toujours Jacques Villeneuve. Bon, je l'aime pas trop. Hein. J'avoue que j'aime pas trop.
Mais quel connard! Mais en plus, sincèrement, ce week-end, t'as des raisons, parce que il a viré comme une malpropre d'Annika Patrick lors d'une course de NASCAR dans les derniers tours. Il s'est fait souffler dans les bronches.
En plus, elle était très bien placée, si j'ai bien.
Ah oui, elle était quatrième ou troisième. Bon, un peu distancé par rapport au peloton à la relance, et lui, il arrive, et oh, tiens, on a un virage, oh, je vais pas utiliser les freins, je vais me servir d'Annika, voyons.
Non, bah, il est pas bien sympa, ce mec. Il a dit, non, il y a un truc qui m'avait dérangé, c'est que, il disait en gros que les pilotes actuels, disaient qu'ils étaient tous trop jeunes, que c'était des bébés, des fils à papa, alors que, enfin, je sais pas si, il a dû oublier que son père, c'était quand même, Villeneuve. Enfin voilà, c'est des déclarations à la Jacques Villeneuve qui sont pas très intelligentes.
Et toi, Shinji, un petit drive-through? Et pas contre TF1, Shinji, je t'en fais souvent.
Ça. Non, ah tiens, c'est pas sur la F1, mais c'est sur la GP2. Ah. J'ai envie de dire, calmos!
C'est-à-dire dans quel domaine, Shinji, s'il te plaît?
Je sais pas, alors bon, c'est vrai qu'à Valence, il y a eu beaucoup d'accidents.
Oui.
Mais bon, tu peux te dire, ouais, bon, c'est Valence. Sauf que c'est pas la première fois. C'est-à-dire que à Monaco, on a eu des voitures qui sont passées par au-dessus. Alors c'est chouette, ils disent ouais, les courses sont passionnantes, elles sont disputées. Oui, enfin, il y a facilement 5 à 6 abandons par course, et c'est pas des pannes moteurs. Hein. C'est des gens qui se rentrent dedans.
Mais les mecs, ils tentent tout et n'importe
mais
quoi.
Voilà, moi, c'est tout, mais surtout, c'est souvent n'importe quoi. Voilà. Alors, quand tu te dis que c'est quand même des gens, les meilleurs sont quand même amenés à passer en F1, tu te dis, oh mon Dieu. Quand on va leur dire le prix des voitures, ils vont devoir se calmer, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir faire ça avec des F1. Hein.
Mais pas, cette année particulièrement, ils sont complètement cramés.
C'est très, c'est vraiment cette année, parce que et même les années précédentes...
L'année dernière, je n'ai jamais vu deux, trois des courses de GP2, c'était pas ça.
Bon, ils en veulent, hein, ça, c'est jamais.
Ah oui, ça c'est sûr. Hein.
Mais alors là, cette année, wouh.
Non mais là, sincèrement, ce week-end, quand on regardait la course, mais les mecs, ils tentent tout et n'importe quoi. Ils tentent de dépasser à des endroits où tu dis, mais
ça peut pas attends, passer.
Mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un virage, mais tu peux pas passer là, quoi. C'est pas possible. Les mecs dans tous les sens, quoi. Mais c'est juste incroyable. Moi, j'ai été parti pour mettre sur les pilotes, et je vais peut-être plutôt mettre. Ça, c'est beaucoup vu en GP2. Ça, c'est aussi un peu vu en Formule 1. C'est sur la voiture de sécurité et la direction de course.
Ah, tu sais quoi, j'ai hésité.
Oui. Non, mais sincèrement, qui a été. C'est surtout les commissaires et la conception du circuit.
Attends, faut bien dire la sortie de la. Faut quand même dire la sortie de la voiture, elle est justifiée en soi.
Oui, elle est justifiée en soi parce qu'il y a des débris
voilà,
et compagnie.
Il y a des débris et tout. Faut quand même le préciser, hein, voilà.
Mais derrière, voilà, enfin, ce que tu vois, Vettel et surtout Grosjean, son moteur s'arrête, je sais plus quoi, enfin voilà, sa voiture a ralenti. Et là, il est avec les bras, il dit, bon, je vais où? Et les autres, ils passent à fond à côté. Et là, il fait, bon, il suit le mur en disant, tu vas bien trouver une sortie à un moment donné. Puis le mec s'arrête parce qu'il voit une sortie. Et là, pas un chat. Il y a personne. C'est-à-dire qu'il y a un endroit pour évacuer la voiture. Okay. Là, il y a personne.
Alors que tu remarqueras quand Alonso gagne, là ils sont 14.
Ah bah oui, non mais là.
Le pire c'est à côté t'as la Ferrari qui est en panne, hein, parce qu'il a pas pu. Et tout le monde s'en fout. C'est oui. Bon d'accord, vous êtes content, on serait content à votre place. Il y a quand même une voiture en panne à côté de vous, hein. Bon, c'est gentil de mettre la peluche au-dessus pour mettre la photo sur l'iPhone, mais quand même.
Et puis en GP2, ça a été n'importe quoi, pareil, des safety cars qui arrivent jamais, des décisions quand même qui ont été prises qui étaient très très litigieuses. Et cette magnifique scène, alors je sais pas si vous avez vu les courses de GP2, mais à un moment donné, en GP2, alors c'est là où vraiment GP2, t'as envie de taper sur les pilotes, mais pas que. Tu te dis, y a pas que. En GP2, t'as un mec qui se dit, tiens, je vais traverser la voie des stands au moment où il y a des bagnoles. Et là, je crois que c'est Felipe Nasser, je crois, c'est un top pilote, un mec qui était devant et compagnie. Et le mec, il est là, et oh, un bonhomme qui traverse, vite, je fais un écart. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Surtout qu'il y a des sirènes qui avertissent qu'il y a des voitures dans la pit lane. Donc, bon, là, tu sais que tu dois pas sortir du muret, que tu dois attendre, quoi. Et tu regardes à droite, à gauche. Là, le mec, il voit bien qu'à droite de lui, pas trop loin, il y a des voitures qui sont en train de s'arrêter. Tu t'engages pas à ce moment-là. Enfin, c'est, avec les roues de Lewis Hamilton, c'est le deuxième endroit le plus dangereux du monde, quoi. Donc, voilà.
Et ces gens sont l'avenir de la F1.
Oui. Oh, là, ça fait peur. Mais en même temps, tu vois, pour un peu avancer sur ce qu'on va dire, je pense ensuite, quand tu vois certains mecs qui arrivent du GP2, on va pas refaire le procès de Lewis Hamilton, mais c'est vrai que ça a aussi été un peu l'an dernier, je tente tout et n'importe quoi, n'importe comment. Là, on voit aussi avec Maldonado que parfois, genre champion GP2, ça passe un peu tout et n'importe comment. On peut aussi citer le cas de Grosjean qui nous fait des dépassements.
Oui, c'est vrai.
Surtout des départs où tu te dis, là, Grosjean, t'as été un petit peu optimiste. Des fois ça passe, mais
on a quand même des petits gros hein.
Voilà, donc tu te dis c'est une nouvelle génération de pilotes qui arrive, et c'est vrai que comme tu le disais au début, ça serait bien peut-être de vraiment calmer le jeu et de les ramener aussi, de dire c'est bon, vous jouez pas non plus votre vie là-dessus, quoi. Et je pense que c'est aussi ça, quoi, c'est que ça a tellement le rôle de formule de promotion vers la F1 que les mecs se sortent véritablement les doigts du cul pour le coup. Mais un peu trop.
Mais moi, je suis aussi la World Series et Formule 3.5. Ils sont pas aussi cramés qu'en GP2.
Ouais.
C'est pas assez grave.
Nous allons passer à la course et revenir sur ce fabuleux week-end.
Ah.
Nous allons commencer par les qualifs. Que rappelons, Tim O'Dlock n'a pas disputé. Alors, officiellement parce qu'il était malade, il a des maux de ventre. Nous, on vous dit tout. Il avait une gastro.
Il avait la chiave.
Voilà.
Il met juste les formes.
Et donc, la place du con cette semaine, c'est vrai que Vergne a fait la Q1, comme d'habitude, mais il y a eu mieux, c'est Marc Weber, qui, bien évidemment, nous a fait son grand classique, mon DRS, marche pas.
Non, mais Weber, sincèrement, d'abord, il y a le DRS, c'est le DRS ou le casse? Non, c'est le DRS, qui marchait pas, là, en qualif. Et en plus, ils ont refait la voiture à zéro parce qu'il a eu un problème électrique, je crois, le samedi matin, donc ils ont dû reconstruire toute la voiture. Donc pour le coup, c'est vrai qu'encore une fois, on le sent bien cette saison. Dès que tu loupes une séance, une partie de séance, tu prends un retard énorme par rapport aux autres. Et là, quand tu vois les écarts, tu dis oui, effectivement, il était peut-être pas forcément très loin. J'ai plus souvenir des écarts. Non, les écarts en Q1 étaient importants, mais quand tu vois les écarts qu'il y a après en Q2, tu te dis ah oui, effectivement, fallait surtout pas rater le moins de temps en piste parce que.
Et donc en Q2, on peut quand même noter justement. Comme il y a eu, entre guillemets, deux places du con, Kovalainen fait une Q2. C'est toujours sympa pour Caterham.
En plus, il fait une Q2 en étant devant Ricciardo.
Devant Ricciardo, oui.
Bon, parce que Ricciardo décide, Toro Rosso décide de ne pas aller plus loin, et d'économiser des pneus, mais, quand même, ils sont quand même passés devant.
J'ai envie de dire, pour Toro Rosso, c'est bon, quoi. J'ai envie de dire, le pic de développement, c'est bon. Maintenant, cette année, c'est inquiétant parce qu'ils sont déjà au fond. Ouh! Sinon, quand même, que Massa fasse 13 en Q2, j'ai envie de dire, c'est devenu une habitude. Mais Alonso, c'est là que justement, comme tu disais, on voit que les écarts, ils ont pas été ils ont été super serrés en fait. 11e, ce qui reste une excellente place, forcément, avec le système actuel.
Mais ils ont commencé avec des pneus tendres. C'était les seuls qui ont commencé la Q2 avec des pneus durs. Sans doute pour économiser un train de pneus tendres pour la suite. Et ça leur a peut-être coûté, parce que même si derrière ils refont un relais en pneus durs, rien ne garantit, comme les écarts sont très serrés, rien ne garantit qu'ils n'auraient pas forcément fait mieux sur un premier relais.
Sinon, bon, dans cette Q2, il y a Perez qui fait que 15.
Hein, ouais.
Quand même, étonnant, ouais, donc...
C'était étonnant, même, bon, parce qu'on va pas en...
Bah, Perez, il a fait 15 il y a 15 jours. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils avaient l'air beaucoup mieux quand même. Ce
quand même, là c'est vrai que...
Lors des essais, mais...
D'ailleurs, la preuve, hein, même en course, il a été un des premiers à changer ses pneus, ça a surpris tout le monde. Et Schumacher qui fait que 12.
Oui, parce que d'habitude, il est toujours dans le top 10.
Moi, oui, il est pas forcément tout en haut, mais oui, il est quand même régulièrement en Q3, Schumacher. Ouais. Et donc, en Q3, bah déjà, il y a les deux Force India. Hein, Hülkenberg fait 8 et Di Resta fait 10. Alors que c'est vrai que depuis le début de saison, on les voyait moins. Enfin, disons que surtout qu'il y avait beaucoup de monde devant, ce qui faisait que ça les faisait reculer. Là, pour la première, je me demande si c'est pas la première fois qu'il y a les deux en Q3.
Si, c'est, cette année. Il y a toujours un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps.
Jamais les deux. Kobayashi qui fait 7. Comme quoi, parce que c'est vrai que souvent, c'est Perez, on voit souvent Perez devant Kobayashi. Cette semaine, ça a été le contraire. Bon, on peut passer sur Button qui fait 9. Qui est sur sa lancée, Button, malheureusement. Non, ça ne t'inspire pas, Dino, Button?
Attends, je mange un Mars.
Ah, c'est pour ça.
Ah non, d'ailleurs, je dois dire, ce que j'ai dit Kinder Bueno la semaine dernière, faut que je respecte. Hein. Donc, je mange un Mars, un Twix, un Teasers, un Bounty, un Milky Way, un Snickers, un Dove et un Caramel Dove. Voilà.
Ah, t'as acheté des...
Ça, j'aurais cité tout le
monde. D'accord.
Oui, j'ai acheté des célébrations. Enfin, on m'a offert des célébrations.
On avait un peu compris.
Voilà.
Donc non, Button, ça t'inspire pas?
T'as
le droit de dire non et de t'en foutre. Hein.
Non. C'est étonnant parce que je l'ai senti un peu mieux au début et puis après plus mieux.
Mais c'est ce qu'il disait en plus avant de commencer les essais, etc. Normalement, il serait mieux sur le balance.
Donc Rosberg fait 6, mais bon...
On s'en fout.
Tire groupé des Lotus, par contre. Grosjean 4, Raikkonen 5...
Ouais.
Donc exactement ce qu'on disait, c'est dans ces positions-là qu'ils doivent se qualifier quoi pour espérer quelque chose.
Bon, on voit que du coup ouais en course voilà. Ça leur permet d'espérer quelque chose.
Bon, sachant que paradoxalement là sur ce Grand Prix c'est plus compliqué parce que c'est un circuit urbain et tout. On va dire que ça a quand même plutôt.
Oui, oui c'est vrai chez JE, c'est un circuit où on ne peut pas dépasser.
Théoriquement.
On l'a encore eu la preuve ce week-end.
Maldonado qui fait 3. Il va vraiment nous faire croire hein, que ce n'était pas un acte isolé sa victoire.
Hein. Non, je te dis arrête de dire des conneries. Non.
Mais c'est qui c'est Niki Lauda je crois qu'il a un petit peu qui a tenu un
concert.
Oui il a dit qui se souviendra voilà. Bah, il est dans la lignée parce qu'il a dit qui se souviendra de la victoire de Maldonado. Il va voir les grands champions et compagnie. De me dire en même temps je suis pas forcément très loin de partager son opinion. Attention, bah, je dis pas très loin.
On l'a pas beaucoup vu l'année dernière. Enfin, bon, les Williams, c'était pas terrible.
C'est-à-dire que Maldonado, quand on le voyait l'an dernier, c'était pas pour les bonnes raisons.
C'est ça.
Non, mais Maldonado, l'an dernier, on l'oublie, mais c'est lui seul qui qualifie Williams en Q3 à 3 reprises, je crois. Là où Barrichello n'y arrive pas. Et en course, il a fait des belles courses, notamment à Monaco où il fait une superbe course, mais où il a fini pas pour des raisons qu'on sait. Voilà, donc c'est une bonne année de débutant dans une voiture qui était pas bonne du tout. Donc, malgré tout, il s'en est bien sorti. Là, c'est vrai que cette année, il se révèle un peu plus. Parce que je pense que c'est surtout un pilote qui se ménage pas, ce garçon.
Et donc, pour la première ligne, Lewis Hamilton fait 2, mais donc c'est Vettel qui prend la pole.
À savoir qu'avec l'écart l'écart qu'il y a entre Vettel et Hamilton en Q3, on aurait pu mettre Alonso en première ligne. C'est là où t'as envie de quand même te dire, c'est quand même un truc bizarre. Sincèrement, c'est pas normal qu'il y ait 2 dixièmes d'écart en Q2, entre le premier et le 11-12e, et qu'il y ait 3 dixièmes.
Ah, il a aussi claqué un énorme temps.
En Q3, quoi.
Voilà.
Oui, non, mais oui, d'accord, il a claqué un énorme temps, mais il va quand même pas nous faire croire qu'il pouvait pas le sortir non plus avant.
Oui. C'était donc la 33e pole position pour Vettel. Alors, c'était répété, hein, c'est statistiquement, Clark, Prost, voilà. Oui. La 42e.
Ah. À savoir, je me suis amusé, j'ai fait un article là-dessus cette semaine. Alors, je me suis un petit peu amusé. Il pourra théoriquement battre le record. S'il continue sur sa lancée actuelle, il pourrait battre le record de pole position, c'est-à-dire avoir une 69e pole position, le soir de son 186e Grand Prix.
Mais c'est genre s'il faisait que des poles là à partir de maintenant.
Bah, c'est genre s'il continuait sur jusqu'au 186e Grand Prix sur la lignée qu'il a eu depuis ses débuts.
D'accord.
Donc bien évidemment, c'est totalement foireux comme raisonnement puisqu'on ne sait pas s'il aura tout le temps une bonne voiture pour lui permettre de faire la pole ou quoi que ce soit. Aussi à signaler que théoriquement, s'il fait une carrière à la Schumacher de 300 Grand Prix et qu'il continue sur cette lignée-là, il sera le premier homme à faire plus de 100 poles.
C'est pas impossible.
À savoir aussi qu'il fait sa 33e pole à l'âge de il a bientôt 25 ans puisque c'est le 3 juillet son anniversaire.
Oui.
Les autres qui ont fait 33 pôles, donc t'as cité les noms. Le plus jeune, c'était Senna à 29 ans. Faut savoir que grosso modo, s'il continue sur sa lancée, Vettel battra le record de pôles de position absolue à 29 ans.
Non mais s'il continue sur sa lancée, les records de Schumi tombent. Je veux dire, tu te rends compte que théoriquement être même double champion du monde, c'est un truc qui arrive à la trentaine.
Oui.
Voilà. Il a quand même 7 ans pour être le plus jeune triple champion du monde avant Alonso. Ouais. 7 ans.
Alors qu'Alonso, c'est cette année où vous
viendrez. Voilà, c'est quoique.
Non,
mais ça peut arriver cette année, je veux dire. C'est ce que je voulais dire.
Non, ça ne peut pas arriver cette année.
Ça va arriver.
Voilà. Merci Denis. C'est la 42e pole pour Red Bull. Et là, je suis sûr que tu t'es pas emmerdé à faire plein de stats sur Red Bull parce que tu t'en fous.
Non. Moi, je me rends un peu de Red Bull.
L'as.
J'avoue. Vettel, ça m'a plus ému.
C'est la 198e pour un moteur Renault. Presque. Et bientôt 200. Plus que 2.
Oui, pas très loin de Ferrari d'ailleurs.
Plus que 2.
Je crois.
Je sais pas combien ils en ont, Ferrari.
Non, pas 207, 208, un truc dans le genre.
Moteur. Donc moteur, hein.
De toute façon, Ferrari, ils ont que moteur.
Bah non, parce que il y en a 206 pour le moteur Ferrari, il y en a 205 pour Ferrari et une pour Toro Rosso.
Oui, non, je comprends quand j'ai moteur. Donc avec moi, cette année, hein, Red Bull pourrait faire plus de pôles que...
Ferrari,
Renault pourrait battre le nombre de pôles de Ferrari.
Oui.
C'est quand même assez hallucinant, quand même.
Donc à une moyenne de 198,891 km/h. Donc à noter, alors que Glock, si ses problèmes s'étaient arrêtés, en fait, il aurait été autorisé à prendre le départ.
Oui, c'est ce qu'ils avaient dit.
Voilà, nous allons passer au top 10.
Ouais.
Nous allons passer au grand moment de cette émission. Parce que vous l'attendez tous.
C'est...
Pour plein de raisons. Et on vous rassure, vous allez vous en rappeler de ce top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, comme d'habitude, peux-tu nous indiquer les pilotes qui ne font pas partie du top 10? Écoutez bien.
Oui Shinji, oui Jenny, je vais vous dire le top 10 et je m'adresse à toi fumeur de marijuana qui nous écoute. Oui, je vais vous dire qui n'est pas dans le top 10. Tu vas voir que va falloir que t'arrêtes de fumer mon grand. Hein? Alors, ne sont pas dans le top 10, 24e. Pedro de la Rosa, 3 points. Jusque-là, c'est normal.
Alors, laisse les auditeurs réfléchir et se dire, mais attends là.
Déjà, première couille, 23e, Timo Glock, 16 points.
Oui, c'est vrai.
Alexandre, qu'est-ce que t'as fumé?
Voilà, parce une que gastro, ça vaut 16 points.
Voilà, on doit dire aux gens, la gastro, ça fait pas aller plus vite. Hein. Enfin, ça fait courir vite, mais pas plus.
N'empêche, tu es plus léger après.
Oui, c'est vrai.
Les ingénieurs adorent la gastro.
On va vite changer de sujet, je dis. 22e, Bruno Senna, 30 points. 21e, Jean-Éric Vergne, 40 points. 19e, ex aequo, Daniel Ricciardo et Vitaly Petrov, 48 points. 18e, Charles Pic, 61 points. 17e, Heikki Kovalainen, dont le jeu Angry Birds Heikki vient de sortir sur PC. Heikki Kovalainen qui a marqué 70 points. 16e, Kamui Kobayashi, 82 points. 15e, Sergio Perez, 86 points. Et là, on a, un step. Et écoutez bien. 14e, Jenson Button, 133 points.
Eh oui.
13e, Felipe Massa, 183 points. Encore un nouveau step.
Eh oui.
12e, Pastor Maldonado, 200 points. Et 11e, et là, vous l'attendez, le 11e, en vous disant, mais what the fuck? Et là, le 11e, messieurs, dames, c'est Nico Rosberg, 235
Nico
points.
Alors... Je veux pas être dans le thème de la gastro, mais on va dire que cette semaine, Rosberg, il l'a quand même bien dans le cul.
Oui.
En sachant donc que le vainqueur de, du week-end a marqué 2207 points. Voilà, on peut passer aux choses sérieuses.
Déjà, on va commencer par les points que nous nous avons donnés.
Alors... Non, je veux passer aux choses sérieuses.
Déjà, on va parler de Charles Pic. Parce que je lui ai donné un point. Jennifer lui a donné un point. Et Dino, tu lui as donné deux points. Parce que
oui, c'est... comme ça, il y a des gens qui donnent deux points. Comme ça, c'est des fous, des malades.
Parce que bon, c'est vrai. Alors, Timo Glock n'était pas là, entre guillemets. Il y avait pas la pression, mais il y avait quand même une pression parce que il a porté son équipe tout le week-end et il l'a super bien fait.
Ouais.
Oui, et puis il finit devant les deux HRT.
HRT, voilà, à la régulière, les HRT ont fini et tout, donc vraiment super bien.
Ce qui mérite à mes yeux des points.
Ouais, je dis. Ah oui, bah moi aussi, c'est pour ça que je suis flus.
Non mais voilà, non mais soyons clairs.
On a voulu souligner, voilà, quelqu'un qui était en fond de plat.
Finir devant les deux HRT, ça mérite des points
oui,
maintenant.
Voilà.
Hein. Surtout qu'il avait HRT, même pas de tour de retard en plus.
Non, il était dans le même tour.
Ouais.
Ah non, alors faut dire qu'ils étaient dans le même tour parce qu'ils ont été autorisés au moment de la safety car à revenir dans
vrai. Oui, mais enfin quand même, Massa, il finit un tour lui.
Oui, mais il finit un tour parce qu'il est déjà en queue de peloton. Oui. Et parce qu'en plus, il a des problèmes techniques.
Oui, c'est vrai. Il a pas été gâté. Sinon, Dino, tu as aussi donné un point à Bruno Senna.
Ouais, moi, je sais pas, mais moi, j'ai adoré sa reprise. Voilà. Je trouve que, sincèrement, on lui est tombé un peu dessus pour l'accident avec Kobayashi. Pour moi, c'est un incident de course. Voilà. Enfin, c'est Kobayashi qui essaie quand même de passer par un trou de souris. Bruno Senna qui vient juste se remettre dans l'aspiration du mec devant. Donc voilà, de là à tracer des responsabilités, moi je dis c'est un incident de course, je n'ai même pas envie de dire c'est 50-50, c'est un incident de course, voilà, comme il en arrive. Mais la manière dont il se récupère, mais c'est juste...
Il n'a pas été pénalisé, hein. C'est Kobayashi qui a été pénalisé.
C'est Kobayashi.
Et vraiment, moi je trouve que... En plus, il... Alors certes, il est aidé par la safety car, parce que justement, il fait partie avec les HRT et la Marussia, des pilotes qui ont été autorisés au moment de la safety car, c'est la nouvelle procédure, à reprendre le tour qu'ils avaient perdu, la procédure NASCAR. Mmh. C'est pour ça aussi qu'il finit dixième, il marque un point, après, en plus, avoir eu un drive-through et avoir dû rentrer au stand. Voilà, donc malgré une belle course de merde, il marque quand même un point, il nous fait une belle manœuvre de récupération. Je me voyais pas lui retirer un point.
Non, putain.
Il y en a qui ont fait moins et qui ont eu des points.
Allez, on va commencer par la 10e place.
Oui, celle-là, elle est bien.
Il a marqué 273 points. Il est écossais, même s'il a un nom d'italien, c'est Paul Di Resta.
Moi, j'aime bien.
Les Force India, je disais, donc en qualif, c'était bien, mais elles ont quand même plutôt assuré, justement, en course.
Ouais. Et Di Resta, c'est le seul qui a fait un seul arrêt, en plus.
Oui.
Une stratégie complètement pourrie. Enfin, le pauvre, il fait un super début de course et à la radio il dit non, t'inquiète, on va s'arrêter dans quelques tours. Oui, non, mais là je suis juste en train de me faire déposer par tout le monde.
Ouais, bah, il a eu de la chance qu'il y ait eu des accrochages devant. Voilà.
Oui. Sinon, il aurait été en dehors des points et alors qu'il avait le potentiel pour être dedans à cause d'une mauvaise stratégie. C'est dommage parce que surtout vous avez une voiture performante sur le week-end, donc pour le coup, vous n'avez pas forcément non plus besoin d'aller chercher une stratégie aussi extrême. On sent que c'est l'équipe qui n'est pas encore habituée peut-être à jouer devant parce que là vraiment, vous avez les armes pour se battre dans le top 10, pour se battre pour un top 5. Même potentiellement, pourquoi pas, au regard de la physionomie de la course, avec les incidents de course pour finir sur le podium, donc c'est vrai que c'est dommage.
En plus, le Kendall, il a fini 5e, et souvent, Di Resta est souvent devant le Kendall.
On rappelle quand même la réputation d'Hülkenberg qui est plutôt flatteuse.
Ah, oui, moi j'aime beaucoup. Ouais.
Il y a deux ans, tout le monde en avait plein la gueule d'Hülkenberg et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la comparaison avec Paul Di Resta et mine de rien, voilà, Paul Di Resta, il est un peu devant, il a un peu l'ascendant sur Hülkenberg. Ça montre la valeur de Di Resta. Ouais. Ouais.
Non, en même temps, il a une année complète juste avant en 2011, alors que Hülkenberg, il était en troisième pilote.
C'est ça, oui.
Oui, mais bon. Là, on est quand même au 8e Grand Prix.
Oui, là, ça t'en va, c'est équilibré. À la 9e place, eh bien...
Non, je te dis, passe ton à 9e place, ça va m'énerver.
Nous allons parler ornithologie.
Oui.
Pourquoi ornithologie? Parce que c'est le plus grand vol de l'histoire du SAV de la F1. Il a marqué 309 fois.
Ne dis pas le nom, s'il te plaît, ne dis rien.
C'est notre monsieur météo préféré.
Mais c'est pas croyable.
Merci Quentin. Parce que bon, hein, on n'est pas dupes, hein, que Kartikeyan soit 9e, il n'y a pas de 46 000 raisons pour laquelle Kartikeyan est 9e.
Kartikeyan 9e. Non mais vous vous rendez compte que l'an dernier, quand moi j'ai osé mettre 25 points, hein, pour que Kovalainen marque un point, c'est limite, je me suis fait traiter comme du poisson pourri. Et là, Kartikeyan, qui a rien branlé du week-end, hein, on est bien d'accord. Il a rien foutu, il était derrière, il était devant Charles Pic, il a fini derrière. On est bien d'accord, il a rien branlé du week-end. On lui donne 309 points. Mais c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Non mais en plus, non mais sincèrement, à la limite, je comprends que ce soit en réaction à la chronique de Quentin, qui est pas forcément bien passée. Moi, je l'ai défendu et je le défends encore sur sa chronique. Maintenant, la chronique de Quentin, c'est la chronique de Quentin. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, exprimez-vous sur la chronique de Quentin. Là, malheureusement, vous avez un petit peu fait le mélange des genres en venant, entre guillemets, vous venger de la chronique de Quentin dans le classement du SAV qui est autre chose sur le site. Et c'est vrai que malheureusement, moi je le dis sincèrement, ça ampute un peu de la crédibilité du classement d'aujourd'hui parce qu'il va s'en dire sincèrement au regard du
Grand
Prix.
C'est qu'une 9e place après, hein.
Oui, sincèrement, c'est qu'une 9e place, mais quand on regarde devant qui il est devant Rosberg, Maldonado qui pouvait prétendre au podium, on peut en mettre d'autres, hein, on peut mettre Charles Pic à la limite, Petrov ou Kovalainen qui sont passés, qui ont été en deux doigts de la Q2, Kovalainen est passé en Q2, Petrov a été à un moment donné 10e, là Kartikeyan il a fait que dalle en course, il se retrouve avec 309 points, c'est, calculé, c'est pas difficile, c'est 103 fois plus de points que Pedro de la Rosa, qui est dernier et qui a fini devant, je crois, d'accord. Donc voilà, c'est juste à un moment donné, c'est juste une question de crédibilité. À la limite que ce soit dans le cadre de la course, vous vouliez faire passer un truc dans le cadre de la course. Mais là, sincèrement, les gens qui vont regarder le classement, s'ils sont pas au courant de la polémique qu'il y a eu autour de la chronique de Quentin, ils vont jamais comprendre. Ils vont se dire, mais c'est quoi cette émission? On a donné 2 points à Kartikeyan. Qu'est-ce qui fait qu'il mérite 2 points? Donc voilà, à l'avenir, quand Quentin fait des conneries avec sa chronique, vous faites attention. Et je rappelle que je soutiens la chronique de Quentin.
Balancez tout ce que vous voulez dans ses commentaires, c'est son truc, voilà, mais pas chez nous.
Voilà, merde. Bon, je suppose que je te dis que personne ne lui a donné de points dans l'équipe, là. Hein.
Bah non.
Et là, il me dit, non, mais Jennifer, justement, a donné 5
points. C'est vrai.
Non, passons à la 8e place.
Non, mais Shinji, je tiens quand même à me rappeler que quand même, je me suis fait quand même traiter comme du poisson pourri à une certaine époque parce que j'ai mis Buemi sur un podium, hein, que j'ai promu et compagnie, et que là, franchement, je tiens à insister, Kartikeyan, c'est LE scandale du SAV. C'est une honte, messieurs dames, ce classement.
C'est bon?
Tu vois, je suis tellement énervé, Shinji, que je suis obligé, je m'excuse auprès de tout le monde et de nos amis réunionnais.
Cherche pas des excuses bidons, hein.
De toute façon, tu auras le droit, Shinji, t'inquiète.
Oh, mais au pire, tu le mets en sonore dans le générique de fin, puis voilà.
Non, Shinji, je préfère te faire la surprise, je sais que ça.
À la 8e place. Bah, c'est l'autre pilote Force India.
J'ai cru que t'allais dire l'autre HRT.
Bah non. Une fois de la Rosa. Hein.
On sait jamais. Les gens sont fous.
C'est Nico Hülkenberg qui a marqué 391 points. Je lui ai donné 4 points au classement, hein, vraiment. Jennifer, tu lui as donné 8 points.
Oui.
Elle aime ses dents.
Ah non, il y a pas un beau sourire. Hein. Mais
Alors voilà, encore un exemple.
Hülkenberg veut dire Colquette en allemand, hein, c'est pour ça.
Ah bon, je savais pas. Non mais
c'est dingue, elle croit mes conneries directes et tout.
Ah oui, non, mais... Voyons, c'est une femme.
Ah, c'était facile ça.
Je suis désolé parce que c'est pas mon genre en plus.
C'est ça. Non, Non, j'aime bien Hülkenberg, j'aime bien, bon, même s'il est un peu à la traîne début de saison, en fait j'aime bien Force India, j'aime bien cette équipe, donc c'est pour ça, tout simplement. Et puis je trouvais qu'il avait fait un bon Grand Prix quand même.
Bah, c'est vrai que d'un point de vue même résultat, voyons, Force India, c'est leur meilleur résultat, 16 points depuis le début de saison. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont raté les points que 2 fois, en Chine et au Canada. Alors que tu te dis, oui, ils sont tout le temps derrière, ils sont hors des points, bah non. Il y avait quasiment tout le temps une Force India dans les points.
Ouais, l'année dernière, ils étaient pas bien loin de Sauber et de Williams, mais c'était que... Cette année, vu que Sauber et Williams ont fait des podiums, c'est pour ça qu'ils sont si bien.
À la 7e place, il a marqué 640 points. il est anglais, il roule dans une écurie anglaise.
Oh, j'avais pas vu ça, putain.
Oh. Ah bah oui, je t'ai dit qu'il était mémorable, ce top 10. C'est Lewis Hamilton. Alors, c'est vrai que Dino, toi, tu l'as carrément mis 12 points. Moi, je lui ai donné 6 points. Et Jennifer lui a donné que 2 points.
Ouais.
Bon, déjà, faut dire un truc. Encore une fois, il s'est passé un truc dans ses arrêts au stand.
Mais là, alors, sincèrement, il y a plein de gens qui sont tombés sur le dos de l'équipe ce week-end. L'équipe, j'ai l'impression qu'elle n'y est pas pour grand-chose. S'il lève vite, se casse, quoi. Alors, je sais pas vraiment la raison exacte du problème, mais ils mettent le lève vite, la voiture se casse la gueule, c'est sans doute une défaillance du lève vite. Donc là, ils y sont pour rien, enfin, une défaillance,
Mais ce qui est fou, c'est que ça soit tout le temps McLaren et tout le temps Hamilton.
Et c'est surtout sur Hamilton, ouais.
Non, mais le plus drôle quand même, c'est le lève vite, il est doublé. et apparemment, ils se sont dit, ça cassera jamais, on peut mettre le petit Pedro là, on va le mettre derrière avec le lève-vite, il va juste le tenir. Et là le pauvre il s'est retrouvé, allez, il fait 1m60 les bras levés et 40 kilos tout mouillé, et il s'est retrouvé à devoir lever une McLaren. Ouais. Tu te dis, là il y a peut-être une petite erreur d'organisation.
Et heureusement qu'il y a Jean-Louis qui est juste à côté, qui est préposé aux pneus, mais qui lui fait 1m80 et qui fait de la muscu. Qui dit, mais enlève bagnole, ça sert à rien, vas-y, je te prends l'aileron, pouf, je te soulève la voiture.
Tu vois, quelque chose me dit que apparemment Jean-Louis va être à la place de Pedro à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Mais il y a pour Hamilton, c'est sur la roue arrière gauche aussi, je crois qu'il y a eu un petit accrochage quand ils l'ont mis par contre. Il me semble en plus de, pour le.
Alors, pas sur cet arrêt-là, mais sur un autre, je sais plus.
Après sur cet arrêt-là, c'est pas non plus impossible dans la mesure où quand la voiture tombe, ça peut faire sauter une roue. Enfin voilà, les mecs sont en train de visser, tout d'un coup la voiture elle descend de 10 cm et bon bah peut-être que ça a pu foirer, mais je pense que enfin il perd quand même 10 secondes dans l'affaire. Mm. c'est sincèrement aujourd'hui je pense qu'Hamilton quand il rentre au stand quand on lui dit Lewis Pit in that lap
are you sure?
le mec il se dit attends on va pas rentrer les mecs, allez on fait zéro arrêt cette semaine.
Bientôt il va changer lui-même les pneus pour être sûr.
Oui, il va descendre,
il aura peut-être moins de temps, ouais.
Laissez-moi faire, les mecs, laissez-moi faire.
Non, bon, sinon après bon, il y a pas eu que ça, voilà, il y a eu l'accident.
Moi, j'ai adoré sa défense.
Mais c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai mis que 2 points. Il a certes bien défendu, mais quand on est en face de Maldonado, on sait qu'il est complètement fou, donc on laisse passer au bout d'un moment.
C'est même étonnant qu'il se défende à ce point-là, vu l'état de ses pneus.
En plus, oui.
Encore, à la limite, c'est-à-dire qu'il se défend, mais il se défend pas non plus. Il se défend bien, moi je trouve qu'il fait une belle défense. Mmh. Mais quand il sent que de toute façon il va passer à la casserole, il résiste pas. Il y a que sur Maldonado qui résiste. Oui. Et c'est là où Martin Whitmarsh lui-même, le patron de l'écurie McLaren, a déclaré aujourd'hui il n'aurait pas dû se défendre autant de sa position, oui, il aurait dû ramener la voiture, etc. Il aurait ramené les points de la quatrième ou de la cinquième place. C'était mieux que d'abandonner, quoi. Alors après, sur l'incident, on peut juger des responsabilités, etc. Mais quoi qu'il arrive, dans sa position au titre, et je pense qu'on ne peut pas écarter ça de l'incident, mais dans sa position au championnat et compagnie, il y en avait un qui avait beaucoup à perdre s'il y avait un carton, et un, finalement, qui avait, entre guillemets, que le podium à perdre. Mm. Voilà, parce que Maldonado, sincèrement, ne joue pas le titre. Il y a cru, il y a 2-3 courses, maintenant, il s'est rendu compte
laisse-le croire.
Voilà. Et je pense que c'est aussi une donne qui explique aussi l'accrochage. C'est deux pilotes qui se parlent, qui sont prêts à rien se lâcher. Hamilton qui déjà on voit dehors à l'entrée du virage, on voit dehors Maldonado.
Bah oui, c'est ça, voilà. C'est
Maldonado qui revient. Alors apparemment, il est sur le vibreur aussi. Enfin, la direction, il tourne le volant, mais la voiture ne tourne pas. Non. Donc, ils ont bien expliqué dans Dimanche F1 que c'était peut-être aussi lié au fait qu'il était sur le vibreur, etc.
Et derrière, il se met bien à l'intérieur aussi pour que Maldonado y revienne pas.
Voilà, il sera pas bien. Et le coup de roue, c'est aussi un message qu'on va à Maldonado en disant, écoute, on sait très bien que tes pneus ils sont foirés, tu joues au championnat, fais pas le con, quoi, laisse-moi passer. De toute façon, je vais passer. Ah, je te le dis, tout de suite, je passe. Ah, tu vois ma roue, je vais passer. Alors, voilà, écarte-toi un peu sur le côté, je vais passer, puis ça se passera bien. Voilà, mais c'est deux pilotes qui ont rien voulu se lâcher. Moi, je mettrais un peu plus les torts à Hamilton parce que il aurait dû lâcher le morceau.
Ce qui est con, c'est que c'est Maldonado qui se prend 20 secondes de pénalité.
Moi, je pense qu'ils ont mis 20 secondes de pénalité pour compenser un peu le fait, parce que Madonna, il en repart quand même avec un point. Mmh. Ils se sont dit, voilà, pour le coup, on va mettre 20 secondes de pénalité,
parce
il va
que
perdre.
Bon,
il
va être Hamilton, il a pris le mur, donc.
Voilà, donc, comme ça, au moins, aucun des deux va avoir un résultat, ce week-end, donc, il y aura pas de problème. Je pense que c'est surtout pour réparer, c'est plus une pénalité pour réparer que vraiment pour sanctionner une faute, parce que dans ce cas-là, les fautes, elle est pour les deux, hein.
Oui, bah oui, voilà. À noter, parce qu'il y a eu trois gros trucs, il y a eu Kobayashi, Hamilton, il y a aussi eu le coup de Vergne, hein, qu'on peut parler 5 minutes.
Oui, oui, on peut en parler 5 minutes, tu dis.
Vergne, hein, qui... Oui, je tournais parce que je préparais le virage. Oui, enfin, le virage, il était 150 mètres devant.
Non, c'est tout doux. Au début, c'est l'excuse, c'est « Ah, je me rappelle plus trop, faut que je vois les images. » Attends, t'étais au volant, il y a 5 minutes. Là,
Tu l'as bien vu, le gros truc vert, là, sur le côté.
T'as oublié qu'il était qualifié devant toi, comme à Leiden, hein. Faut peut-être qu'on te le rappelle.
T'as qu'une Toro Rosso, hein. C'est...
Voilà, non, mais maintenant, c'est ça. Vergne, on va lui dire « Tu sais, t'as qu'une Toro Rosso, quoi. » Enfin, c'est une Caterham, quoi, merde. Il y a deux équipes qui se sont révélées, Caterham et Acharte, enfin, Karst et Kayan.
Non, ne remis pas la plaie. C'est...
Non, je ne lâcherai pas les auditeurs.
Allez, on va passer à la 6e place. Il roule chez Red Bull, mais lui, il a fini la course. C'est Mark Webber. Il a marqué...
Et pourtant, il est derrière, c'est incroyable. Ouais. Il a fini la course, mais il est derrière.
Il a marqué 861 points. Alors, je lui ai donné 8 points, Dino aussi, et Jennifer lui en a donné 10. Alors, ce qui est étonnant, Webber, c'est qu'on l'a quasiment pas vu de la course. Et puis d'un coup, à la fin, on fait « Ah tiens, Mark Webber, il est quatrième, derrière tout le monde, enfin, juste au pied du podium !»
Mais au début, les commentaires au début de le monde disaient « Ah, pour Mark Webber, parce que Mark Webber,
il était
16e, 17e, il n'arrivait pas à avancer, etc. Ah, oh, pour Mark Webber, oui, en même temps, il nous a déjà fait le coup en Chine l'année dernière, où au bout de 15 tours, il était toujours 15e, il n'avait pas avancé et tout. Et après, ça se débloque grâce à sa stratégie décalée. Et... Belle remontée, mais maintenant, c'est sincèrement, moi, ces remontées-là, je suis pas super, je trouve pas ça fantastique.
Bah, il était quand même à la 19e, en qualif, il était 19e.
Il était 19e, mal, ouais. À la fin du premier tour, il est 17e, qui prend que 2 places, hein, et il est 17e d'ailleurs jusqu'au 9e tour, et ensuite c'est après le 9e tour qui commence sa remontée.
Au début des arrows, tant.
Voilà. Donc voilà, bonne stratégie, plus il a bien bénéficié. Parce que forcément, quand t'as 4-5 pilotes en moins, c'est plus.
Bah, il a bénéficié, c'est l'un des mecs qui a bénéficié aussi de la safety car.
Ouais, oui, ça.
Ça a poussé tout le monde à rentrer au même moment, ça a égalé les stratégies, donc égalisé.
Oui. Et donc lui, il a terminé. Il a eu des pets sur son DRS, sur son KERS, mais lui, au moins, son alternateur, il marchait.
Ouais.
Alors dans ce cas-là, passons au gros morceau, parce que là, c'est vraiment le gros morceau du top 10.
Non, les gens ont quand même pas remis Kartikeyan dans le classement.
Non, ne t'inquiète pas, avec des scores assez serrés à ce niveau-là. À la 5e place, il a marqué 1099 points. Il pilote chez Lotus et il a fini la course. Et il a fini deuxième. Hein. Je vous rappelle, hein, c'était le type que la semaine dernière, on disait « Oui, il est peut-être démotivé. » Ouais, bon, il a fait 2 courses moyennes. Eh ben, il a fini deuxième. C'est Kimi Raikkonen.
J'ai dit, peux-tu exactement nous dire à quel moment Kimi Raikkonen a été le plus étincelant dans la course? À quel moment il nous a vraiment montré qu'il était motivé?
Non mais
d'accord, on est bien d'accord que il y a quand même une différence entre le résultat de la deuxième place ne contredit pas ce qu'on a dit il y a une semaine quant à sa motivation. Il aurait pu faire beaucoup mieux et même à la régulière. Grosjean l'a montré. Il est deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 abandons devant lui et que sincèrement, il a fait un déplacement sur Hamilton. Mais Hamilton en difficulté de pneus et encore, ça a été long à venir. Donc voilà. Moi, je l'ai mis. J'ai mis combien déjà? J'ai mis 7e.
Comme tu dis.
Et sincèrement, moi, c'est pas le pilote qui m'a le plus impressionné.
Je dis pas que c'est sa plus grande course, mais à entendre certains, pas forcément toi d'ailleurs, c'était limite, il va replonger dans le classement et tout.
Non, c'était pas ça, mais c'était s'interroger sur le comportement, sur sa motivation. Sincèrement, est-ce que toi, ce week-end, il t'a rassuré sur sa motivation?
Ah bah, moi, il m'a quand même un peu rassuré. Je vous le dis, c'est pas sa meilleure course, certainement pas. Et en effet,
il faut pas grand chose se dire.
Non, c'est son meilleur résultat depuis son retour.
Oui, mais c'est pas grand chose, sincèrement. Il a fait des courses bien meilleures cette saison.
En même temps, il a fini deuxième parce que Vettel a été arrêté, parce que Grosjean a abandonné aussi.
Mais bien sûr. Bah, attends, tout le podium et tout le haut du classement, ah, oui, c'est oui, ça, ouais. Hein, faut pas.
Oui, mais, non, mais le truc, c'est que lui, il y a 3 abandons devant lui, il partait 5e. 5-3, 2, je te dis. Alors que certains, on va prendre Alonso, hein, il finit premier après être parti 11e. Il y a 3 abandons devant lui.
Je n'ai pas dit que c'était sa grande course.
Mais c'est bien, en même temps, t'as
je n'ai pas dit que c'était
sa. Voilà, il faut savoir être fan et super valoriser les trucs.
Non, mais, j'ai juste que par rapport à ce qui a pu être dit et par rapport à ces deux dernières courses, c'est quand même mieux.
Je te taquine, mon petit Cindy.
Dans ce cas-là, passons à la 4e place.
Mais non, mais Jennifer.
Ah bah oui.
Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, je sais pas, Kimi, pourquoi tu l'as mis cette. Bah,
parce que je trouve pas qu'il. Je pense qu'il a. Bah, comme. Il aurait pu faire mieux, du coup. Comme tu dis, il était 5e sur la grille à la base et c'est pour ça que.
Tu vois, c'est ça le problème du côté fanbase. C'est que quand Kimi fait un truc bien, il est sur-revalorisé. Mais s'il fait un truc qui n'est pas super bien, là tout de suite, ça devient très moyen.
Non, parce que moi de toute façon, je suis pas une grande fan de.
Ah non, mais.
Il est bon, c'est un bon pilote. Et c'est normal qu'il ait été. Mais là, en fait, face à Romain Grosjean, je suis déçue. Je pensais qu'on allait voir. En fait, moi, je m'attendais à une saison en 2012 avec Raikkonen où on allait le voir devant Grosjean à chaque fois. Et c'est pour ça, simplement.
La voix de la raison.
Tu peux le redire à mon copain, s'il te plaît.
D'accord. Je l'appellerai après la course, après
merci,
l'émission.
Allez, à la 4e place. Il a marqué 1189 points, donc 90 points d'écart. Franchement, à ce niveau-là, c'est super faible. Hein. Oui, les écarts sont.
C'est surtout l'écart qui me choque, je dis, entre le 5e et le 4e. Je sais pas, il y a un moment donné où je bug.
Je lui ai donné 15 points, Dino, tu lui as donné 18 points, Jennifer lui a donné 25 points. C'est Vettel.
Ouais.
J'ai hésité, hein. C'est pareil. J'ai hésité.
Ça s'est joué à un alternateur.
Ah, parce qu'il a fait, une belle course quand même.
Bah, de toute façon, sans son souci, voilà, il n'y avait pas photo sur la course. Hein. Y a pas de... Il l'a gagné facile. Hein.
Bah, au moment où il y a la safety car carré, donc au 28e, 29e tour, il a 20 secondes d'avance. Enfin, ce genre d'écart, je crois même que l'an dernier, je suis pas sûr que l'an dernier, on avait vu autant de gros écarts. On a dû en voir une ou deux fois des écarts qui dépassaient les 20 secondes à la mi-course. Quoi. C'était juste insolent. Alors après, ça qu'il a peut-être bénéficié aussi du fait qu'Hamilton bouchonnait un peu Grosjean. Mais vers la fin, en fait, Hamilton bouchonne Grosjean. Grosjean, quand il le passe, il a 11 ou 12 secondes de retard sur Vettel. Il se prend encore 8 secondes derrière sur les tours qui suivent, quoi. Donc c'est, voilà, le début de course de Vettel, il est époustouflant. Ouais. Mais je l'ai mis deuxième parce que certains l'ont mis premier. Alors je sais pas trop pour toi, Jenny, mais je comprends que certains l'ont mis premier au regard du fait que ils ont pas tenu compte de la safety car en disant voilà, au moment de la safety car, elle était premier, dominée.
Non, franchement,
en même temps, moi je dis aussi voilà, c'est le top 10 du SAV dans mon point de vue à moi et la manière dont je le fais, c'est bien évidemment sauver des situations et remettre des pilotes à une place que je juge légitime. Maintenant, je peux pas non plus dire ah tiens, la course ça s'arrête à la safety car, prendre le classement presque de la safety car et derrière bah j'espère quelques petits ajustements non, mais, par rapport
après,
à ce qui derrière. Il y a 25 tours derrière et c'est pour ça que j'ai préféré mettre Alonso devant parce qu'il a fini la course et que malheureusement le problème c'est pas un coup de malchance de la part de Red Bull, c'est un vrai problème technique
de Renault
qui était évitable, c'est un problème de Renault, d'ailleurs Renault s'est excusé, qui touche deux voitures, c'est un problème de conception qui était évitable et voilà, c'est pas un coup du sort, une pièce qui casse de façon.
Après, mettre Vettel premier, franchement, c'est pas scandaleux. Hein. C'est...
Ah non, ben moi, voilà. Moi je te dis,
c'est pas cartiquant.
Et donc, toi, Jenny, tu l'as mis premier pour.
Parce que, comme tu disais, il a fait un départ qui était quand même assez terrible et c'est surtout pour ça. Il a fait... Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une course comme ça avec Vettel. Pourtant, je suis pas. Enfin, j'ai pas de chouchou à part, mis à part. Fernando Alonso, mais Vettel là,
la voix de la raison.
Pas sûr, c'est pas par rapport à la safety car que je l'ai mis premier, surtout parce que c'est à cause de son alternateur qui a cassé. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que c'est pareil pour Grosjean. Je me suis dit, je vais remettre le classement comme ça aurait dû être si l'alternateur avait pas lâché. Ouais.
On arrive au podium.
Ouais.
Je lui ai donné 10 points, comme Dino. Jennifer lui a donné 12 points. Il a marqué au total 1253 points. On continue hein, sur les scores serrés. Enfin, Michael Schumacher sur un podium.
Ça a été chaud, hein, parce que...
Et comme je disais sur Twitter, rendez-vous compte, Alonso, Raikkonen, Schumacher, et on est en 2012.
Ouais, oui.
Tu changes juste les couleurs de tenues, et voilà. La dernière fois qu'il y a eu ce podium, j'ai vérifié, c'est en 2005.
Donc tous des pilotes de Ferrari, en final.
Oui, d'ailleurs, on a vu cette image quand Alonso n'était pas encore revenu, entre Raikkonen, Schumacher, et je sais plus qui c'est qui est...
Andrea Stella.
Voilà, Andrea Stella. C'était assez sympa.
Et l'ingénieur de course de Fernando Alonso, qui était ingénieur de course de Michael Schumacher et de Kimi Raikkonen.
C'était un peu sa fête, le podium.
Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé, sincèrement, moi, c'est, on va reparler sans doute d'Alonso, etc. Mais, j'ai beaucoup aimé cette image du podium. On aurait pu penser que Ferrari tire un peu la couverture à elle-même en faisant monter Dominicali, mm-hmm. ou pourquoi pas Luca di Montezemolo. Enfin, même si c'est pas dans l'habitude de faire monter Luca di Montezemolo. Mm-hmm. Mais bon, voilà, pas de Fry ou voilà, un pont. Non, ils ont fait monter l'ingénieur de course Alonso. Donc d'abord, c'est un côté de dire, c'est la victoire d'Alonso et du team Alonso. Mm-hmm. Oui. Voilà. Et en même temps, il y a aussi derrière le fait de mettre aussi en valeur Andrea Stella au moment où trois pilotes qui ont été titrés avec lui, enfin deux pilotes qui ont été titrés avec lui et un avec lequel il vient de s'imposer. C'est aussi un moment pour la Curaia, et ça donne vraiment le symbole de la mentalité de l'équipe, de dire voilà, rendons hommage aussi à cet ingénieur de piste.
Sinon pour Schumacher. Bah déjà, on peut dire, pour une fois, il a eu un week-end sans problème.
C'est ça.
Voilà, c'est pas eu de chat noir, tout s'est bien passé.
Il a fait le résultat qu'il aurait dû faire au moins 2-3 fois depuis le début de saison.
Ouais.
Parce que quand on voit ses performances qui ont été gâchées vraiment par des accidents, des problèmes et compagnie,
ça peut peut-être débloquer.
Là,
hein.
Effectivement, il a tout eu et.
S'ils ont enfin réussi à évacuer le chat noir, apparemment pour les pneus ça va, parce qu'il faisait super chaud et il finit troisième.
Ouais. Parce que, en plus, c'est seulement le troisième Grand Prix non, qui termine là cette saison, ou c'est le quatrième. Parce que les autres, ils les avaient. Il me semble.
De toute façon, je crois qu'à chaque fois qu'il a terminé un Grand Prix, il a marqué des points, si je me
trompe
pas.
Ouais. Mais je crois que c'est seulement le troisième en. Enfin, ça fait même pas 50% des Grands Prix qui terminent, c'est sûr que.
C'est vrai qu'il a marqué que trois fois des points. Et ouais. Les deux premières fois, c'était que un point.
D'ailleurs, il l'a dit, je suis très content de passer de 2 à 20 unités.
Ouais.
À 17.
Oui, c'est déjà mieux. Non, belle course méritée, franchement, voilà, tout simplement.
Belle remontée sur la fin, voilà, enfin, il fait un très mauvais départ, voilà, mais après, il s'adapte avec une stratégie, il revient faire son trace offensive avec des pneus plus frais, voilà, alors après, on peut juger la course en disant, bon, il avait des pneus plus frais, c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que Petrov est dixième, ils vont passer Petrov, lui et Weber à 10 ou 12 tours de l'arrivée, et entre les 10 ou 12 derniers tours, ça leur permet d'arriver sur le podium et au pied du podium. Et là tu te dis, même lui il le dit à la fin dans les déclarations d'après-course, il dit, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, tout ce que j'ai vu, j'avais vu quelques tours avant le panneau de Weber qui disait 6 ou 7ème, donc moi comme je savais que j'étais devant Weber, bah je savais que j'étais une place devant, donc voilà, et quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, j'ai demandé aux mecs, ils m'ont dit c'est le podium, et là j'y croyais pas, quoi, parce que à un moment donné j'ai arrêté de compter les dépassements, parce que ça arrive à la fin, ça dépassait un peu dans tous les sens, en plus avec l'accident, Maldonado et compagnie, ils étaient pas tellement au courant, ils savaient juste qu'il y avait eu un drapeau jaune, donc il dit voilà, je suis arrivé, c'était un peu la surprise, et ça se sent sur le podium.
D'ailleurs ils ont eu un peu peur hein, par rapport au drapeau jaune, bon il a rien eu, mais il y a eu une investigation.
Mais c'est pas clair cette règle, c'est-à-dire qu'en fait, même là, enfin, j'ai pas trouvé l'explication. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment interdit sous drapeau jaune.
Bah, faut pas dépasser.
On se rappelle du précédent. Mais certes, faut pas dépasser, il faut pas dépasser un certain temps. C'est d'ailleurs ce qui sauve Schumacher, c'est qu'il avait le DRS ouvert, mais qu'il n'a pas dépassé le temps du secteur qui était imposé par la FIA, parce que la FIA, en fait, pour expliquer pour les néophytes, depuis quelques années, je crois maintenant, quand il y a un drapeau jaune, vous devez baisser la limite au niveau d'un temps référence qui est relativement bas, voilà, et vous n'avez pas le droit d'améliorer ce temps-là, ce qui fait que par exemple Vettel, à cause de son DRS qui était ouvert en Espagne, avait amélioré son secteur et donc avait été pénalisé. Et là, ce qui sauve un peu, donc Weber est allé se plaindre, enfin, Red Bull sont allés se plaindre en disant qu'il avait le DRS ouvert sous le drapeau jaune. Mais apparemment, dans le règlement, il y a rien qui stipule formellement dans le règlement que tu n'as pas le droit d'utiliser le DRS sous le drapeau jaune.
Il a peut-être pas freiné, mais s'il a relâché la pédale des freins, d'accélérateur, par exemple, voilà.
C'est ce que dit Rose Brown, il dit qu'il a arrêté d'utiliser 30 mètres avant la section drapeau jaune. Maintenant, apparemment, les preuves vidéo
ont montré qu'il
avait bien le DRS. Donc, apparemment, moi, ce que je comprends, c'est que le DRS, t'as le droit de t'en servir sous le drapeau jaune.
Mais faut pas. Oui, voilà. Donc, de toute façon, il n'a rien eu, il n'y a pas de souci pour sa troisième place.
On passe. Et, oui. Je tiens à dire que c'était tout à fait légitime de la part de Red Bull et Weber de se plaindre auprès de la direction de course. Enfin, on les a traités de mauvais coucheurs. Je crois pas qu'on ait dit de Mercedes quand ils ont porté réclamation sur le trou tel truc technique, on a dit que Mercedes c'était des mauvais coucheurs. Ça fait partie de la règle du jeu. Si vous êtes victime d'un délit, vous estimez victime d'un délit, vous demandez réparation. Après, effectivement, la justice fait son rôle et apporte des preuves. Ça a été bien fait apparemment, mais c'est tout à fait légitime de la part de Weber et de Red Bull.
Bon, après, c'est vrai que du côté de Red Bull, ils commencent à être un peu conspirationnistes, mais c'est un autre problème.
Mais ils sont conspirationnistes parce que, enfin, il se passe pas aujourd'hui, il se passe pas un Grand Prix, là encore, après la course, l'écart de 20 secondes en 28 tours a un peu inquiété certaines personnes. On commence déjà à se poser des questions, mais quel est leur truc? Alors là, les nouveaux échappements, nouveaux fonds plats commencent à faire poser des questions. On va regarder ça de plus près.
On va passer à la deuxième place. 1350 points. C'est un pilote qui a roulé pour Renault en 2009.
Pas Fernando. Allez, Jennifer,
fais quoi?
Pas Fernando. C'est gros Jean.
Bah oui, parce qu'Alonso, il vit en Italie, je crois.
Non, il vit en Suisse.
Ah, parce qu'il disait qu'il vivait même en Italie, justement, pour être plus proche.
C'est peut-être depuis la séparation de Raquel. Peut-être que Raquel, elle a récupéré.
Oui.
À Sion, ou je sais plus où.
Mais donc, à la deuxième place, c'est Romain Grosjean, que j'ai mis deuxième, comme Jennifer. Toi, ouais. Dino, tu l'as mis, j'ai entre guillemets, que troisième. Mais c'est entre guillemets.
Oui.
Il m'a impressionné. Vraiment. Bon, alors, le départ, il fait pas forcément un super bon départ. Parce que Raikkonen fait un très bon départ. Mais comme Raikkonen se touche avec Maldonado, là, il fait un truc énorme.
Ah, il a du flair.
Il passe entre les deux, c'est juste énorme.
Il tente des trucs, c'est
assez formidable. Mais il a bien fait de mal démarrer. Comme ça, il était derrière.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Tu vois Raikkonen qui part très très vite, il touche Maldonado, voilà. mais vraiment, voilà, c'est vrai que sans le truc de l'alternateur, deuxième sûr. Est-ce qu'il aurait réussi à rattraper
Alonso? Non, je pense pas. Si on commence à faire sans le truc de l'alternateur, faut aussi dire sans le truc de l'alternateur de.
De Vettel.
Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que la bataille Alonso-Grosjean aurait tourné à l'avantage de Grosjean. Sincèrement, Kimi Raikkonen n'a pas non plus montré les preuves qu'il était en mesure de rattraper véritablement Fernando Alonso. Fernando Alonso sur la fin de course. Peu à peu contre les gars, il a lui-même dit on était en rade avec les pneus à chaque fois, à chaque tour je demandais à mes ingénieurs qu'est-ce qui se passait derrière, et ils me disaient non, tu viens de faire le même temps, tu viens de reprendre de dixième et compagnie. Donc Fernando Alonso lui-même était surpris que Raikkonen ne remonte pas, donc c'est pas forcément certain. Tout le monde refait la course après la course, et tout le monde dit Grosjean aurait gagné, il avait les meilleurs pneus, etc.
Il y a eu
rien ne dit que ça se serait fait, surtout face à un Alonso qui court à domicile, qui a légèrement les coucougnettes sous le menton. Voilà, donc c'est rien ne dit que il n'aurait pas. Voilà, on se souvient quand même de ce qu'il a dit de Pérez. Il a dit moi je changerai pas de trajectoire. S'il veut changer, c'est assez risqué et péril. Bah là, je pense que ça aurait été strictement pareil.
Il y a eu cette petite erreur au restart, par contre. Mais là, c'est peut-être plus de l'expérience.
Mais c'est-à-dire que, ouais, plus que de l'erreur, moi, je dirais que c'est surtout un coup de flair d'Alonso qui est assez.
Ah oui, ça.
Enfin, est-ce que c'est un coup de flair? Est-ce qu'il le provoque en disant, voilà, tu vois, je vais te doubler à l'extérieur, puis en fait, je vais te croiser à l'intérieur pour avoir plus de motricité?
Mais vraiment, il m'a vraiment hyper impressionné. Autant, paradoxalement, c'est pas un bon résultat au final, mais je trouve que, il a passé un step.
Mais oui, et puis ils le disent aussi, enfin,
je crois, aujourd'hui, déjà, par rapport aux courses qu'il avait déjà faites auparavant, je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va rester jusqu'à la fin de saison, et que là, je crois que sa place en F1, c'est bon, hein.
Oui.
Enfin, ça, il n'y a pas de souci. Je crois que vraiment, là, on peut se dire que s'il gagne pas, avant la fin de saison, ça sera vraiment un échec. Mais vraiment.
Oui, non, mettons pas non plus la pression.
Non, on n'est pas à l'abri. Bien sûr, mais par rapport.
Il peut arriver ensuite dans le développement. Et voilà, après, c'est.
Bien sûr.
Plus ça va avancer dans la saison, plus ça sera quand même dur de gagner, surtout s'il y a des prétendants au titre qui se dessinent les courses deviennent un peu plus âpres. Mais là, pour moi, il a déjà réussi sa saison, quoi.
Mais là, vraiment, après une course comme ça, on peut vraiment se dire que voilà, il a le niveau pour gagner une course et s'il reste longtemps en F1 pour faire de grandes choses, quoi. Vraiment très très impressionnant.
Et ce qui était hallucinant, je sais pas si vous avez eu cette impression-là pendant la course, mais quand on a vu la tête de Éric Boullier, quand on a eu les interviews et compagnie pendant la retransmission et compagnie, on rappelle quand même que Éric Boullier vient de perdre un pilote qui était deuxième. Mm. Voilà, il se retrouve avec un pilote qui est troisième, qui m'irait connaître. Donc ils ont quand même un podium.
Oui. Ah bah oui, non mais.
Et pourtant, ils tirent une tronche incroyable. Ouais. Et sincèrement, moi je me suis dit, c'est à la fois encourageant pour Grosjean et inquiétant pour Raikkonen, c'est que j'ai eu l'impression que ça les faisait vraiment chier que Grosjean ne soit pas sur le podium. Voilà, c'était vraiment un coup de massue, et que même la présence de Kimi sur le podium ne les redynamisait pas et ne les réconfortait pas, quoi. Et vraiment, ça m'a fait un choc, moi, ce week-end.
Et j'ai vu une vidéo aussi où il disait bien que, enfin en tout cas, l'équipe Lotus, pour eux... Même s'ils disent qu'il n'y a pas de premier ou de deuxième pilote, en tout cas, à Enston, c'est Grosjean qui est bien vu. Hein.
Oui, oui.
Et Kimi Raikkonen, sachant qu'apparemment, il ne doit pas mettre souvent les pieds là-bas. Et puis, il est quand même... ils le connaissent depuis 2009, en plus.
Ils connaissent bien l'équipe. Mm. Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il a quand même la capacité de fédérer autour de lui, ce qui est un super atout, quoi. On se rappelle que c'est comme ça que Massa a pris le dessus sur Raikkonen. Hein. Massa, il prend le dessus sur Raikkonen parce qu'il a fédéré l'équipe, parce que c'est le pilote maison, que voilà, il a toujours des attentions pour l'équipe, il est tout le temps là et compagnie. Là où Raikkonen, c'est son boulot. Il vient les jours de travail et puis le restant du temps, il s'occupe de sa vie et compagnie. Et ça, je pense que si vraiment il y a une qualité qui peut te faire gagner face à Kimi Raikkonen, c'est cette capacité à fidéliser l'équipe, à être là tout le temps. Et c'est plus facile de fidéliser quand t'es un débutant que quand t'es... c'est-à-dire qu'il est obligé d'être là tout le temps, d'être avec l'équipe, d'être super attentif. Mais superbe course. Hein.
Oui.
Ça aurait été beau quand même, une victoire.
Ça arrivera.
Ah ouais, moi j'en suis convaincu. Enfin, puis je suis convaincu que Grosjean va aller très loin dans les années à venir et qu'aujourd'hui il fait sensation sincèrement dans le paddock.
C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je me dis moi maintenant justement par rapport à cette course. C'est s'il fait des bons choix de carrière, s'il continue sur sa marge de progression, ça pourrait être un grand de la F1, mais vraiment un grand.
Ouais.
Sans oser dire qu'il aura son nom sur une certaine coupe, mais qui sait.
De quelle coupe tu parles, Fiji?
Tu sais, celle qui donne à la fin.
Ah oui.
Non, pas une coupe Miko, non, c'est... Non, une autre.
Non, ça c'est pour Kimi.
Oui. Passons au premier du classement. Et alors, autant...
Ah oui.
Autant, il y avait un paquet qui est quand même assez serré. Sur le premier, il n'y a pas eu de discussion. 2207 points. Tais-toi. J'ai mis premier, Dino l'a mis premier. Jennifer ne l'a mis que troisième.
Oui, je sais, ouais. Non, parce que comme
je me suis dit, non, on va le mettre deuxième. Bon, d'accord, je comprends. Non, troisième. Ouais. Ah, shame on you.
Non.
Beaucoup
d'émotions. J'ai failli le mettre premier parce qu'il a versé sa petite larme. Il était trop mignon.
Oui, c'était
et
beau, ça.
Voilà.
Ah, moi, sincèrement, je dois le dire. J'ai toujours dit que Alonso, c'est pas forcément un homme que j'aimais beaucoup, mais que j'appréciais beaucoup pilote, etc. J'ai dit, effectivement, quand il est arrivé chez Ferrari, que j'avais une révélation en voyant dans sa belle combinaison rouge. Maintenant, je me suis jamais véritablement considéré comme fan d'Alonso. Si je devais comparer, vraiment, le pilote dont je suis fan en Formule 1 actuellement, c'est Sébastien Vettel. Alonso, j'ai beaucoup de respect, c'est un pilote Ferrari et forcément, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais j'étais jamais vraiment tombé fan du pilote parce que j'avais toujours un peu cette réserve du personnage, du caractère. Et là, je peux le dire, après ce week-end du Grand Prix d'Europe, et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai mis premier, je suis fan de Fernando Alonso. Voilà, la manière dont il a communiqué avec le public, la manière dont il a été sur le podium, qu'il a, il a salué son public, mais il a aussi aussi saluer, ce qui est très important, l'équipe Ferrari. Oui. C'est-à-dire que sur le podium, on a quand même, ce que je disais tout à l'heure, l'équipe Alonso avec Andrea Stella. Mais à un moment donné, au moment de l'hymne italien, où il est avant qu'il mette les bras sur les genoux, il montre du doigt l'équipe Ferrari. C'est-à-dire qu'il leur rend aussi cette victoire en disant, voilà, si je suis sur le podium, et si on en est là maintenant, c'est aussi grâce à vous. Donc, moi qui avais un peu peur que ce soit le Alonso qu'on connaît, qui râle un peu sur l'équipe, finalement, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris la dimension de Ferrari, et qu'aujourd'hui, il est vraiment, pour moi, c'est un vrai pilote Ferrari.
Ouais, c'est ça, totalement.
Dans l'héritage Ferrari, dans la mentalité Ferrari, et voilà, aujourd'hui, je peux vraiment dire, je suis fan de Fernando Alonso.
Ce qui est fou, c'est de se dire que c'est que la deuxième fois qu'il gagne en Espagne, et la première fois, c'était en 2005, à Barcelone. Oui. C'est dingue, je veux dire, vu le talent d'Alonso, c'est que la deuxième fois. Donc c'est vrai que...
Il est toujours terrible en Espagne.
Oui.
C'est vrai que Valence, il a connu des hauts et des bas. Il a très mal commencé, en faisant trois virages.
Oui, c'est vrai.
Après, il a fait deux tours. Après, il a fait deuxième ou troisième place en dernier, je crois.
Bah, c'est bien, il y a une progrès. Bon, là, il peut pas faire mieux que premier. Hein.
Ah non, là, il pourra gagner à Valence, mais pour le Grand Prix d'Espagne.
Voilà. Non, superbe course, quoi. Déjà, ce qui m'a sidéré, c'est que, entre guillemets, il a popé d'un coup au moment des arrêts. C'est-à-dire qu'il était derrière, bon, on était concentré sur Vettel, sur Grosjean, qui se tirait la bourre devant, classique. Il y a les arrêts, et là, pouf, qui on voit apparaître juste derrière. Tiens, je suis là, c'est Fernando Alonso.
Mais il fait un bon départ. Enfin, il fait un bon départ. Oui, il fait un bon départ. Il y a pas forcément de génie dans son départ, mais il est au bon endroit au bon moment, quoi.
Surtout après la safety car.
Il passe de 11
à... Il passe de 22.
Mais déjà même dès le départ, en fait. Il fait un bon départ, il va remonter de la 11e à la 7e place. Bon, il a des pneus frais, ce qu'il faut souligner, il a des pneus frais, l'avantage de partir en 11e, c'est qu'il choisit des pneus. Il a des pneus plus frais. Et puis il va stagner un petit peu, puis là quand commence les arbres stand, c'est là que les pneus frais font la différence. Il va remonter en 4e place. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai devant la course d'Alonso, c'est une image que je me suis faite dimanche soir, je sais plus pourquoi. Je me suis dit, c'est Moïse devant les eaux, quoi. On a eu vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un, moi je suis pas croyant, mais qu'il y avait quelqu'un qui est au-dessus de sa voiture et qui éliminait un peu les obstacles devant lui. Voilà. McLaren, on va mettre un petit problème de crise. Grosjean, il l'a dépassé, mais c'est pas grave. On va quand même se protéger au cas où. On va faire une panne sur Grosjean, une panne sur Vettel. Et on a vraiment l'impression qu'il est passé au travers des obstacles. Et moi, c'est ça, c'est la course propre. C'est-à-dire que il a fini la course, il n'a pas eu de problème. Il n'a pas été...
Tu sais, il confirme...
Il n'a pas été somptueux en course. C'est-à-dire que j'ai connu des courses d'Alonso où il a quand même été beaucoup plus fort et me faisait plus sensation. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait été particulièrement fort. Il a fait des beaux dépassements.
Il confirme cet adage qu'on dit souvent, c'est que les grands champions attirent la chance.
Voilà.
Il fait aucune erreur, donc c'est pour ça.
Ah non, voilà.
Il fait absolument aucune
erreur. Il y a de la chance.
Aucune erreur, et surtout, il profite à 100% de chacune des opportunités. Voilà. C'est-à-dire que, on le voit par exemple avec Raikkonen en fin de course. On a Raikkonen qui est derrière Hamilton, qui est en souffrance avec ses pneus. Il faut 2-3 tours pour que Raikkonen se débarrasse d'Hamilton. Alonso, il a un pilote qui a un problème de pneus. Il freine tard. Il prend à l'extérieur au premier virage. Il frôle un peu le mur. Et il passe. Voilà. Il nous a fait des dépassements comme ça sur 3-4 pilotes, quoi.
Ils ont bien tenu, hein.
Oui, en plus, voilà. Mais même sur la fin, il tient bien. C'est-à-dire que sur la fin, moi, j'étais un peu stressé parce que je me disais, est-ce que les pneus vont tenir? Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la radio, il se renseignait. Puis, peu à peu, il a creusé une avance. Une avance, j'en ai lu certains qui disaient 4 secondes, c'est pas énorme. Enfin, 4 secondes, il y a quelques temps, on disait, par exemple, pour Vettel, 4 secondes, c'était un petit matelas. À partir de ce moment-là, il pouvait commencer à gérer. En fin de course, sur 15 tours, 4 secondes, c'était franchement pas mal. Et voilà, sincèrement, à un moment donné, c'est-à-dire pendant la course, tu dis, qu'est-ce qui va arriver pour qu'il perde? Il va forcément lui arriver
un truc à un moment donné.
Et en fait, quand tu regardes à la fin de la course, tu dis, il s'est rien passé, il a eu une course propre, nickel, là où ça a été un peu Beyrouth tout autour de lui. Lui, il a eu une course nickel, il a su profiter, il a su passer au milieu des obstacles. Ferrari a pas été brillante au stand, puisque les meilleurs au stand, ça a été McLaren. Non, je ne plaisante pas.
Ils font quand même un super bon arrêt sur Alonso en moins de 20 secondes. Hein.
Oui,
en
moins de 20 secondes, oui, ouais. Mais le meilleur arrêt, je crois qu'Alonso, il fait 19 secondes 7. Le meilleur arrêt chez McLaren, il est pour Hamilton en 19 secondes 3.
Ah oui. Voilà. C'était l'autre.
Et le deuxième meilleur arrêt, c'est Button, 19 secondes 6, je crois. Donc, on voit quand même, McLaren était quand même très performant dans les stops ce week-end, sauf à un moment.
Voilà.
Mais vraiment.
Alors, au classement, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Vas-y Jenny, assume maintenant.
J'ai lu un truc alors, qui m'a plu, c'est sur Fernando, je sais plus, sur un petit blog, il y en a un comme il dit sur Fernando Alonso, il faut pas lui laisser un quart de la moitié d'une chance parce que t'es mort quand t'as Fernando Alonso derrière toi.
Mais non, c'est ça, vraiment, Max.
C'est totalement ça.
Et c'est de l'expérience et du caractère.
C'est le meilleur pilote du paddock. Voilà.
C'est gros. Le restart sur Grosjean, enfin, c'est, voilà, c'est, ça a été la phrase sous laquelle sur pas mal de dépassements. On a dit sur les dépassements d'Alonso, c'est des trucs qu'il faut montrer dans les écoles de pilotage. Là, sincèrement, le restart d'Alonso, faut le montrer dans les écoles de pilotage. C'est, voilà, je t'emmène, je te fais croire que je vais aller à l'extérieur. En fait, bah, tu vois, tu te mets au milieu pour me contrôler un peu. Je vais me mettre à l'intérieur, plus de motricité. Je te la vitesse de pointe, je freine un peu plus tard. Et voilà, je t'ai mon petit bonhomme. Et derrière, je sais que ça passe tout droit, mais ça, c'est à toi de faire attention à pas me percuter. Voilà, c'est juste la maîtrise totale de tous les éléments. Après, encore une fois, il y a eu du bol dans sa course, il y a eu des circonstances qu'on se voit en sa faveur, c'est certainement pas sa course la plus brillante, j'ai vu beaucoup mieux d'Alonso cette année, mais voilà, c'est la course qu'il fallait faire à ce moment-là, et il l'a fait.
Au classement pilote, eh bien, c'est Fernando Alonso qui est devant, 120 points, hein, c'est le premier à dépasser les 100 points. À noter d'ailleurs, un peu, par rapport
au... Je vous jure, sincèrement, le podium, le diplôme de fin d'année, je le livre moi-même à Maranello.
À noter d'ailleurs que, on fait un...
Et je préciserai bien,
on fait un classement par points, mais il y a aussi...
C'est le premier d'habitude, en plus.
Si on compte tous les points cumulés, puisque quand vous faites votre top 10, vous attribuez 25, 18, 15, etc., Alonso est le premier à dépasser les 10 000 points cette année. Ouais. Quand même.
On va noter que je crois que le record, c'est quand même la Malaisie où il y a eu beaucoup de participation et où il a fini deuxième. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de voix qui viennent aussi de là.
En deuxième, c'est Hamilton, 92 points. Et en troisième, ex-aequo, Raikkonen et Vettel, 85 points. Devant Weber, 77 et Grosjean, 72.
Je sais pas ce que t'en penses, Jenny, mais moi, je trouve, il y a déjà un championnat du SAV qui est pas mal.
C'est ça.
Au niveau des équipes, ça se resserre. Red Bull 162, Lotus 157, McLaren 141 et Ferrari 133. Et notez donc que HRT marque ses deux premiers points.
Ah non, mais non. Non, je dis, ne me lance pas, s'il te plaît. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, donner des points aux autres aussi, de temps en temps, maintenant, hein. Maintenant, il va falloir assumer.
Bah, il faut assumer. Dans l'autre classement, eh bien, devinez qui est premier. Bah, c'est Fernando Alonso. 111 points, je pensais.
Attends.
Je pensais qu'ils allaient répondre en cœur, mais bon. Donc, 111 points, devant. Oui, Mark Webber, 91 points. Lewis Hamilton, 88. Vettel, 85. Chez les constructeurs, Red Bull, 176. McLaren, 137. Lotus, 126. Ferrari, 122. Là aussi, c'est serré quand même. Même si Red Bull a un peu d'avance. Mais après, entre la deuxième et la quatrième, c'est serré. Nous allons passer au fait marquant.
Ah ouais.
Il y a deux semaines, nous vous demandions quel était le fait marquant du Grand Prix du Canada. Vous avez été 114 à voter. Merci.
Et merci également d'avoir voté, enfin, sauf pour certains.
Oui.
top 10 du SAV.
Est arrivé troisième, c'est ma proposition, je crois, Schumacher, le méga poissard, 21 votes, 18,42%. Ouais. Deuxième, 35 votes, Hamilton, septième vainqueur en cette course, 30,7%. Et enfin, 58 votes, Grosjean et Perez, invités surprise du podium,
ah, c'est moi,
50,88%. Ça. Donc, c'est à moi. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il s'est passé tellement de choses quand même ce dimanche. Ouais, je vais la faire. Je vais dire Alonso, Grande Espagne, même si c'est un classique parmi.
Ah, mince.
Jennifer, c'est à toi.
Moi, je dirais le retour de Schumacher sur le podium. Qu'on attendait depuis longtemps.
Oui. Et toi, Dino?
Valence de points, une course passionnante. Mais j'ai pas trouvé mieux, mais.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est.
C'est vrai qu'on s'est pas ennuyé.
Ah non, c'était vraiment...
On s'attendait vraiment à s'ennuyer sur celui-là.
Mais moi, sincèrement, je croyais à la victoire d'Alonso. Enfin, je sais pas, Alonso va gagner demain. Mais au sort des qualifs, j'étais pas pessimiste malgré la 11e et la 13e
place. Déjà, enfin, la 11e, on sait que c'est pas une mauvaise place en soi. Hein.
Ouais.
Donc, nous vous proposons donc de choisir quel est le fait marquant du Grand Prix d'Europe 2012. Vous aurez le choix entre Alonso, Grande Espagne, le retour de Schumacher, ou bien Valence, une course passionnante. Pour voter, mais non, c'est sur l'article de l'émission que vous écoutez, hein, du SAV de la F1 du Grand Prix d'Europe. C'est juste en dessous, donc si vous nous écoutez, vous avez sans doute déjà voté. Si vous nous écoutez via iTunes, hein, n'oubliez pas d'aller sur le site fan-f1.com.
Avec les 5 petites étoiles.
Et les 5 petites étoiles. Mais ça, c'est une évidence.
Voilà.
Dino, c'est l'heure du concours.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Le concours Top Position du Grand Prix d'Europe, je vous rappelle la question qui nous était posée par Adelin il y a 15 jours et qui était la suivante. Quelle est la longueur de la piste du circuit de Valencia? Et nous avions précisé qu'il y avait un petit piège. Et le petit piège, c'était lequel donc?
Eh bien, parce que le circuit de F1, c'est le circuit urbain de Valence. Il y a un circuit de Valence qui est aussi appelé le circuit Ricardo Tormo.
Ouais. Hein.
Donc, le piège, c'était qu'en fait, c'était le circuit Ricardo Tormo et pas le circuit urbain, mais de toute façon, vous avez donné les deux.
Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que tu acceptes quand on donne les deux? Parce qu'on avait précisé qu'il y a un indice. Donc, est-ce que tu acceptes quand on a donné les deux? Ou est-ce que tu acceptes quand on a donné, en fait, que la bonne réponse, qui est le circuit Ricardo Tormo?
Oh, bah oui, si on a mis les deux, c'est qu'on a mis la bonne réponse.
D'accord, ok. Non, mais je tiens à être
donc le circuit Ricardo Tormo, moi j'ai la distance de 4,051 km.
Tout à fait, c'est
à Chest, dans la banlieue de Valence.
Voilà.
Tandis que le circuit urbain, combien il fait le circuit urbain?
5,473 km.
Ah, c'est les chiffres que j'ai aussi. Donc il est plus long.
Alors, attends, que je vérifie, je crois, il me semble qu'on a 3 bonnes réponses. Oui. Dont une réponse qui nous a vraiment précisé que, on nous donnait que le circuit Ricardo Tormo parce qu'il y avait un piège et qu'on savait donc que c'était pas l'autre. C'est pour ça que je te demandais d'être sûr, Jenny. Je vais vous lire puisque je crois que tu n'as pas participé, Jenny.
Non.
Et c'est pas bien.
Non.
Tu vois, ça fait déjà 2 erreurs dans cette émission.
Tu
participes pas au concours SAV et tu mets Alonso 3e.
Oh, mais non, mais ça c'est...
Et en plus, t'as dit contre au lieu de pas pour. Je vois, ça fait 3 erreurs.
Ça fait beaucoup quand même, hein, charge. Hein.
Voilà. Je veux pas dire, mais quand même. Donc tu pourras aider Shinji dans sa quête de la question magique. Ouais. Alors, première question. Alors c'est que la réponse est longue aussi. Combien de titres de champion du monde de Formule 1 ont-ils été remportés par des pilotes portant le nom ou plutôt le prénom d'un drapeau national?
Attends. Combien de pilotes?
Combien de titres de champion du monde de Formule 1 ont-ils été remportés
par des pilotes portant le nom de drapeau?
Voilà, de drapeau national.
Leur prénom, c'est ça, ou leur nom?
Leur prénom, portant le nom, ou plutôt le prénom.
Donc c'est comme prénom, si un Français s'appelait bleu, blanc, rouge, c'est ce que tu veux dire?
Ben non, mais c'est-à-dire que c'est comme si un Français s'appelait tricolore.
D'accord.
Voilà.
Oui. D'accord.
Ensuite, question suivante. Pour quelle raison Mika Häkkinen a-t-il manqué le warm-up du Grand Prix de Grande-Bretagne 1992? Et enfin, dernière question. Si la reine d'Angleterre actuelle était fan de Formule 1, à combien de Grands Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne aurait-elle assisté depuis son couronnement, sans compter celui de 2012?
D'accord.
Alors, Shinji, Jennifer, quelle question allons-nous retenir?
T'as une préférence?
Ah non, j'en ai oublié une.
Bah,
et 4 réponses.
Bien, très bien.
Qui a remporté la première course organisée sur le circuit de Silverstone, sur quelle voiture et en quelle année?
Ah, intéressant ta question sur le drapeau là, celui qui a un nom de drapeau, c'est...
Ceux qui ont des noms de drapeau.
Enfin, je me demande qui... Je vois pas du tout.
Je t'avouerais, celle-là aussi m'interpelle. Parce que il y a plusieurs semaines, tu as dit oui, que je prenais des faciles. Donc, prenons-en une un peu plus dure cette semaine. Parce que celle-là, je pense qu'elle est un peu plus coton.
Laquelle?
Celle sur les drapeaux.
Oh non, elle est pourrie, ça l'a fait. Oh non. Non, je dis, on peut pas cautionner des questions de merde.
Ah, mais il y a de la recherche, là.
Oui, mais c'est nul.
Il est gentil, il veut me faire plaisir parce que j'ai dit ça.
Donc, on va féliciter pour cette magnifique question. Bravo, Globen. Oui, ça ne pouvait venir que de toi, Globen. Donc, je rappelle la question concours. Non, on va d'abord passer aux autres parce que cela me fatigue. C'est vraiment une émission de merde, hein. Carte caillante, des questions toutes pourries, c'est franchement... Jennifer, t'es mal tombée, en fait. Alors, juste on va revenir un peu sur les autres questions. Si la reine d'Angleterre actuelle était fan de Formule 1, à combien de Grands Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne aurait-elle assisté depuis son couronnement sans celui de 2012? Et là, je dois dire, Shiji, il y avait aussi de la recherche.
C'est vrai.
Oui. Une idée?
Elle a fêté, c'est quoi, les 60 ans?
C'était ses 60 ans.
Ouais. Bah, donc c'est peut-être à peu près 60.
Ouais, 59-60, si on compte pas 60.
Voilà, et c'est bien 60, hein. Oui. Je pense qu'elle est arrivée en fonction, enfin, elle a fêté son jubilé avant le Grand Prix 52 de Grande-Bretagne. Donc voilà, ça, c'était une question de Maëlle, que nous saluons. Ensuite, la question sur pour quelle raison Mika Hakkinen a-t-il manqué le warm-up du Grand Prix de Grande-Bretagne 92.
Attends, il a pas eu un accident? Non.
Un accident, c'est-à-dire?
Non, Mika, mais non. Ben non, s'il avait eu un accident, il aurait pas manqué que le warm-up.
Il a manqué que le warm-up.
92.
C'est cocasse, hein. C'est hors piste en fait.
Il est parti pisser, non? Bah non, quand même pas.
Non, mais ça aurait été un peu long. Là, c'est plus pisser, je dis. Voilà,
c'est une Timo Glock. Voilà. Est-ce que c'est la même raison que Timo Glock?
Non. En fait, c'est dans le but d'éviter les embouteillages à l'entrée du circuit. Oui, il a remonté une file de voitures. Et fut interpellé par les policiers anglais pour conduite dangereuse et infraction au code de la route.
Ah oui, c'est con.
Il passa donc une partie de sa matinée au poste de police. Voilà, c'est un peu couillon. Il y a le même genre d'anecdote avec Senna, je crois, à Monaco.
Et ça s'est passé lors de quel Grand Prix, pardon ?
Grande-Bretagne 92. Et donc, félicitons Steve pour cette question qui était très intéressante, Shinji, qui demandait de la recherche. ensuite, qui a remporté la première course organisée sur le circuit de Silverstone et l'astuce, c'était la première course,
bah oui.
Et non pas le premier Grand Prix. Et la première course a été remportée par Luigi Villoresi sur Maserati en 1948.
Circuit très récent quand même.
Bah oui. Mais en fait, si tu te rappelles, c'est une ancienne base de la Royal Air Force. Donc je pense que ça a existé qu'après après la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale, tout à fait.
Et donc, nous allons féliciter pour sa magnifique question. Notre ami Globen, qui gagne un petit papier. Bravo Globen, et je rappelle la question. Oh, le mec super motivé. Combien de drapeaux? Non, ah. Merde. Tu vois, elle est tellement pourrie la question, j'arrive pas à la lire.
Combien de titres de champion
du monde de Formule 1 ont-ils été remportés par les pilotes portant le nom, ou plutôt le prénom, d'un drapeau national?
Oui.
Un indice, parce qu'il nous met l'indice.
On parle du Grand Prix de Grande-Bretagne. Voilà, hein.
Cette question est bien en rapport avec le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Il n'y a pas 14 000 drapeaux qui ont un nom particulier, qui ont un prénom.
Voilà. Donc tu vois, là, Sylvie, t'es quand même en train de nous dire que, en fait, cette question qui est super recherchée, en fait, quand on réfléchit, elle est super simple.
Oui, mais il faut le savoir.
Oui, non, mais voilà, Sylvie, non, mais voilà, je te prends devant tes contradictions. Donc voilà, pour répondre, je vous rappelle, c'est concours@savf1.fr. Et j'insiste vraiment pour que ça soit cette adresse-là, parce que c'est la seule que j'utilise pour pouvoir relire pendant l'émission vos réponses. Donc si c'est pas là-dessus, je pourrais pas les lire. Et sinon, voilà, vous avez jusqu'au mardi soir après le Grand Prix de Grande-Bretagne, 18h. Et voilà.
Nous allons passer au prochain Grand Prix, justement, à ce Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone. C'est le retour à la maison. Et si vous aviez la folie de ne pas regarder ce Grand Prix, eh bien, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire? Eh bien, vous allez le savoir, et ça, c'est grâce à Jennifer.
Voilà. Alors, période estivale oblige. Si on n'est pas fan de Formule 1, on peut à ce moment-là organiser un barbecue. Et puis, le Grand Prix commence à 14h, mais le temps qu'on prépare les brochettes, les merguez, et que les amis se goinfrent en attendant, on commence tout juste à manger à 14h, on va dire.
On tient à dire qu'on peut aussi faire un barbecue pendant le Grand Prix de Formule 1.
Oui.
Oui, mais on, voilà. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, certains pilotes ne gênent pas, Niki Lauda, Kimi Kovalainen, Nick Heidfeld.
Sinon, on peut, pareil, vu qu'il fait beau, on peut aller boire un coup en terrasse, par exemple. Ce sera également le premier week-end des vacances. Donc, on sera peut-être enfermé dans la voiture en train d'écouter Radio Trafic pour savoir combien de kilomètres de bouchons il reste sur la route des vacances.
Et là, vous regretterez de ne pas être fan de Formule 1 et de ne pas être resté chez vous.
C'est ça.
Chérie, on partira dimanche, après le Grand Prix. Après dimanche F1, surtout. Ça, c'est la meilleure émission du monde.
Après le SAV. Après, si on habite dans une belle région comme la région lyonnaise, comme moi, on peut enfiler son maillot de bain et se faire briser. En espérant qu'il fasse beau. Et non, t'habites pas dans le nord.
Ouais,
bon. En Normandie, s'il vous plaît, c'est voilà. pas la même chose.
Justement. Alors,
nous aussi, on prend notre maillot de bain quand il fait beau. Bon, c'est, on le sort moins souvent qu'à Lyon, mais on le prend quand même.
Sinon, j'avais marqué quoi? Sinon, j'avais dit, bon, bah, justement, si tu habites dans le Nord, prends ta veste et ton parapluie, tu vas te faire une petite balade. Non, ça, je n'ai pas d'a priori. sinon, bah, le 8 juillet, j'ai vu que c'était la finale du tournoi de Wimbledon aussi.
Ah ouais.
Donc, si on n'est pas fan de Formule 1, on peut être fan de tennis. Et puis, bah, sinon, bah, si t'es pas en vacances, si t'aimes pas la Formule 1 et si t'aimes pas le tennis, bah, c'est pas, tu peux regarder.
Tu peux te suicider ce dimanche.
Non, tu peux regarder la dernière saison de Desperate Housewives, par exemple.
Ah ouais. C'est un peu pareil que suicider.
Il y a Japan Expo ce week-end. Ce week-end-là, par contre.
Ah oui.
Ouais. Donc voilà, c'est le truc à faire si tu n'es pas fan de Formule 1.
Mm-hmm. C'était 7 bons trucs.
Ouais.
Je suis pas d'accord avec tout, je dois dire. mon cœur normand et viking dit que je suis pas d'accord. Mais mon petit côté italien, fan d'Alonso, dit que bon, en fait, les gens du sud sont très sympathiques.
On va passer au prono pour cette course, Silverstone. On sait pas quel temps il fera, hein, mais on s'arrête.
Il fera beau, comme toujours.
Oh, bah oui, surtout là-bas.
C'est l'année dernière où ça a beaucoup plu, par contre.
Ouais, c'est vrai. Mais il y avait plus qu'une, enfin, il y avait eu un truc sur une partie du circuit où, enfin, c'était sur piste séchante vers la fin.
Pourquoi pas un Schumacher? Une piste rapide, on voit que la Mercedes va mieux, si lui va mieux, après tout. Puis j'ai envie que ça soit encore un nouveau, donc.
Mais non, c'est terminé, ça, Shinji.
Non, c'est trop triste!
Non, c'est terminé, Fernando a brisé votre rêve.
Mais il y a encore le record de 11 vainqueurs différents une saison, c'est encore prenable!
D'ailleurs, je suis en train de me poser une question, faut que je vérifie. Parce que je me rappelle que Fernando n'avait pas gagné en Malaisie, dans le classement du SAV.
Oui.
Et je suis en train de me dire, est-ce que nous, dans le classement du SAV, on n'en est pas à 8 vainqueurs différents?
Button, Perez, Rosberg, Raikkonen, Maldonado, Weber, Hamilton et Alonso.
On en est à 8 vainqueurs différents.
Non, on est différents. À 8. Non,
donc, dans le SAV, il faut que gagne Sébastien Vettel, qui n'a pas encore gagné. Il faut que gagne Grosjean.
Ou
il faut que gagne Schumacher, Vergne, Massa, Di Resta, Kobayashi, Senna, Kartikeyan. Non.
Je vais être mes premiers pour le prochain.
Attention. Déjà, j'étais pas content pour une 9e place. Pour une première, je vais vraiment tirer la gueule.
Premier, c'est même pas la peine. Hein. On a le résultat. Hein.
Ah non. Sincèrement, non.
Il y a des limites.
Cette colonne-là restera vide, hein, on vous prévient.
S'il passe premier, c'est que tout le monde se bouge contre toi.
Ou peut-être qu'il va faire la course de sa vie, hein. Qui sait. Et là, tu vois, dans 2 semaines, waouh.
Ils ont tous attrapé la gastro de Glock, alors, à ce moment-là. Hein.
Alors, vos pronostics pour le Grand Prix de Grande-Bretagne?
Moi, j'ai dit Schumacher. Ouais.
Moi, je dirais Grosjean. Parce que déjà, je voulais Grosjean gagne. J'en parlais avec Steph Corr, d'ailleurs, sur Twitter. Et là, je pense qu'il va avoir...
Non, mais Steph Corr, il est corrompu.
Oui, mais là, j'étais d'accord avec lui pour Grosjean. Donc, je pense qu'il va avoir la niaque Grosjean pour gagner son prochain.
Je rappelle que cette demoiselle est fan d'Alonso.
Oui, moi aussi, mais j'ai envie d'attendre une Marseillaise en même temps.
Cette demoiselle, c'est de l'arnaque. Voilà, faut le dire. C'est une arnaque. D'ailleurs, on se demande si c'est une demoiselle. Ça se trouve, c'est un homme depuis le début. Hein, c'est...
En fait, je parle comme ça pour de vrai.
Et moi, je dirais, même si la tentation de dire Alonso est forte, j'ai bien peur qu'on se bouffe du Vettel là. À grosse dose, parce que ce qu'ils ont montré là ce week-end me fait un petit peu peur. En même temps, ça me rassure, hein. Je suis très content pour eux, mais voilà, ça me fait un peu peur.
Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Alors, certains trucs à rappeler. Déjà, on rappelle qu'il y a le répondeur hein, pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions à poser, c'est répondeur@savf1.fr.
On va essayer de répondre aux questions cette semaine.
Ouais, on va essayer de répondre. Deux choses que je voulais préciser et rappeler. La première, ça va peut-être intéresser...
Ne votez pas Kartikeyan, merde.
Donc ça fait 3 choses, donc ne votez pas Kartikeyan. Deuxièmement, ça va peut-être vous intéresser... vous avez peut-être entendu parler, vous savez, du jeu F1 Online The Game, ouais. Le jeu de Codemasters. Ouais. Bon, il était en bêta fermée, donc il n'y avait pas de possibilité, à moins d'être très chanceux d'y jouer. Il vient d'ouvrir en bêta ouverte. Donc ça veut dire que si vous êtes intéressé, c'est à voir. Donc c'est tout récent, je peux pas vous dire à quoi ça ressemble en tout cas. Mais apparemment, on peut le tester maintenant désormais.
Oui, et puis il y a possibilité de créer des équipes. Enfin, il y a pas
oui,
mal
c'est
de pas,
choses, c'est, apparemment, c'est plus un jeu
Management.
De management, voilà, qu'un jeu de course. Le jeu de course, ça sera au mois de septembre, ça. C'est le jeu à 70€. Non, là, c'est, voilà. Non, là, c'est, en plus, c'est par navigateur internet et c'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, voilà, là, c'est passé en bêta ouverte. Donc, normalement, on peut le tester. J'avais aussi une pensée, parce qu'on a appris la disparition de Renaud de la Borderie. T'avais parlé ouais. de la semaine dernière de Thierry Roland, mais voilà, c'est peut-être bien aussi de parler de Renaud de la Borderie, qui a quand même suivi 600 Grands Prix, qui a été journaliste pour Le Parisien, notamment, si je ne me trompe pas, même pour voilà Le Parisien, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment les livres d'or annuels de la F1, l'abécédaire de la F1.
Oui, bourré de fautes, mais voilà.
Voilà.
Ça, c'est pas de sa faute à lui. Mm.
Donc voilà, c'était une pensée pour lui, éminemment pour sa famille. Voilà, il nous a quittés. Voilà, c'est à peu près tout.
T'as flingué la fin de l'émission.
Ah oui, mais tu voulais que je le place où? J'avais pas le place. Tu voulais que je le place juste après Kartikeyan ou avant qu'on fasse
le jeu? Ouais, tu vois, ça m'aurait peut-être un peu calmé, tu vois.
Allez, on arrive à la fin de l'émission. On remercie Jennifer.
Merci à vous.
Oui, merci beaucoup.
Ça va, ça t'a plu?
Oui, c'était sympa. C'est sympa. Je recommande.
Tu poses des questions bizarrement, je suis dit.
j'ai pas dit alors heureux, j'ai dit ça t'a plu.
Non, mais je tiens à préciser que Benoît m'a posé la question sur Twitter.
D'ailleurs, j'en profite hein, pour rappeler qu'il y a des places hein, pour les prochains Grands Prix. Si vous souhaitez participer, c'est contact@savf1.fr. Voilà, c'est Grande-Bretagne, Allemagne et Hongrie. Il y a personne de prévu, donc n'hésitez pas à nous contacter. On en est pour le moment à 8 invités différents et l'objectif de 20 invités différents dans la saison tient toujours. Donc voilà. Même si, bien évidemment, Jennifer, tu es la bienvenue quand tu le souhaites.
Bien sûr.
C'est noté. Merci.
On vous rappelle.
Non, c'est sympa, c'est à faire.
Tu penseras juste à mettre Alonso en meilleure place.
Oui, voilà, la prochaine fois.
On vous rappelle, la F1 sur Internet, c'est sûr.
FanFR.com.
Et comme d'habitude, on vous dit ciao et on vous laisse. J'espère qu'il ne va pas chanter. Mais on vous laisse quand même avec Dino.
J'ai eu une pensée pour toi, Shinji. Quand j'ai cherché ce proverbe, je me suis dit, mon petit Shinji, je l'ai trop gâté ces dernières semaines. J'ai fait des trucs compréhensibles, trucs clairs. Que même ma nièce de 2 ans pouvait comprendre et qu'elle a compris. Et cette semaine, je me suis dit, il faut trouver un truc que même Schumacher ne comprendra pas. Ouais, depuis qu'il n'y a plus Paul Piech, c'est Schumacher le doyen. Et donc, je voudrais avoir cette phrase philosophique. Ça ne vous étonnera pas, c'est un proverbe espagnol, 100% authentique. Hein. Je ne dirai pas en espagnol parce que je tiens trop j'ai trop de respect pour les Espagnols désormais. Et donc, le proverbe est le suivant. Notre ennemi ne nous coûte jamais. C'est bizarre cette phrase.
Est-ce que toi-même tu la comprends?
Non. Parce qu'en fait.
Parce que bon, nous, on va peut-être avoir du mal, mais au moins toi, il faudrait que tu la comprennes.
Non, le truc, c'est que je l'ai copié sur ma tablette. Le problème, c'est que j'ai apparemment une petite erreur de TED-off.
Ah voilà, il fait le fier avec sa tablette et tout.
Non, mais je l'ai copié au début de l'émission. Et le problème, c'est que je me rappelle plus du début de la phrase.
En fait, il fallait peut-être mieux la dire en espagnol.
Mais non, mais vous voyez, à la limite, personne s'en sera rendu compte. Attends, Ah oui, c'est bon, je l'ai, ça y est, je l'ai. Parce que la phrase, là, c'est notre ami ne nous coûte jamais parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Ça ne veut rien dire.
Très philosophique.
Ah oui, je comprends pas. Tu vois, à la limite, ça serait notre ennemi ne nous coûte, parce que notre. Mais là, c'est...
Parce que la phrase originale, c'est « Notre ennemi ne nous quitte jamais parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. »
Bah là, ça a du sens.
Ouais, là, oui.
Voilà, là, ça a du sens quand j'ai pas ce putain de T9 à la con. Non, voilà, c'était ce magnifique proverbe qui nous quittait l'émission et... frati, Italia, l'Italia,
c'est très bien, tu vas pas couper, donc...
Allez, salut.
Salut.